Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
Les effrontés.
Avec Vanessa Destinée. Cube Radio.
Salut tout le monde. Vanessa Destinée à la barre des effrontés pour une troisième journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Si vous n'êtes pas sorti dehors, il faut corriger ça maintenant parce que le beau temps auquel on a eu le droit jusqu'à présent achève. L'hiver, on le sait, là, il n'est pas réellement terminé. Il ne faut pas l'oublier. Et on annonce là, des petites tempêtes là, vers le milieu de la semaine. Évidemment, je ne passerai pas deux heures à vous parler de météo. Ne vous inquiétez pas. On a une très, très belle émission aujourd'hui. On va parler de sujets un peu plus lourds, comme la violence, par exemple, faite aux femmes. On parlait de corruption aussi du côté d'Hydro-Québec et d'accessibilité dans le réseau de transport à Montréal. Mais on va également parler de transformation numérique et d'outils pour nos jeunes. Élise Jeté viendra faire un tour avec sa chronique culturelle, de même que Frédéric Mockel qui va nous parler de podcasts de type True Crime. Mais avant de commencer, on va faire un petit tour d'horizon des actualités avec Alexandre Moranville-Ouellette, chroniqueur et recherchiste à Cube Radio. Salut Alex!
Salut Vanessa!
Ça va bien?
Toujours en forme, surtout avec le beau temps, tu le dis, là, c'est bientôt c'est le moment des terrasses. Ben ça s'en vient. On est en février, mais ça...
Ben moi, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à boire, là, pas sur une terrasse nécessairement, mais juste à boire.
Ah! C'est bon, c'est déjà bon.
Le je mois, me prépare,
le
je
mois
me
sans
réchauffe.
Alcool est presque fini.
Oui, moi, il n'y a jamais commencé pour moi, c'est ça l'affaire.
Je comprends ça.
Écoute, Alex, on va commencer avec la nouvelle qui fait jaser. On sait maintenant ce qui attend Harvey Weinstein. En fait, il y a eu un verdict dans le procès qui l'oppose là, à des dizaines de femmes qui allèguent avoir été agressées sexuellement par cet homme tout puissant au sein d'Hollywood. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus?
Certainement, c'est le producteur des là, puis l'emblème, si on veut, l'élément déclencheur du mouvement Hashtag MeToo, Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable de deux des cinq chefs d'accusation, soit agression sexuelle et viol sur lui. Il va éviter ainsi quand même une condamnation des accusations plus graves, mais c'est tout de même une grande victoire pour le mouvement Hashtag MeToo. Il est passible maintenant là, de 25 ans de prison au maximum, mais il risquera pas la perpétuité parce que le jury l'a disculpé de l'agression aggravante, de comportement prédateur, plutôt de circonstances aggravantes. Ça aurait pu lui valoir la prison à vie. Hein, il a été relaxé donc du chef de viol un peu plus grave qui était lié à Jessica Mann, mais surtout, ce viol-là aurait donné la circonstance aggravante de comportement prédateur. Tout de même, là, la décision à l'unanimité a pris 5 jours de délibération.
C'est quand même assez rapide, considérant là, la charge et le poids qui pesait sur les épaules du jury. On le sait, là, il y a eu une impasse, je pense, pendant 3 jours. Ça a pris du temps quand même pour qu'ils puissent s'entendre là, sur deux des trois facteurs, quelque chose comme ça.
Exactement, puis c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité. Donc, c'est les deux chefs, faut le dire, les moins graves des cinq qui ont été retenus. Mais comme je dis, tout de même passible de 25 ans de prison pour cet homme-là qui a déjà 67 ans.
Ça envoie quand même un message fort parce que, bon, ça pourrait façonner la nouvelle façon de considérer les procès pour agression sexuelle.
Mais c'est la première reconnaissance de culpabilité littéralement dans une affaire post-MeToo. Il y avait Bill Cosby, l'acteur, qui avait été condamné également, mais c'était des poursuites qui s'étaient entamées en 2015, quand on parle du mouvement MeToo.
Il a précédé
ça
le
date,
mouvement.
Ouais. Ça date de octobre 2017 plutôt, donc c'est la première véritable condamnation. Puis c'est un peu dans la même logique, c'est l'élément déclencheur, si on veut. Là, près de 80 femmes qui avaient allégué Harvey Weinstein d'harcèlement, d'agression d'agression sexuelle, de viol, de comportement prédateur. C'est seulement 3 femmes qui ont été entendues lors du procès.
Malheureusement, et qu'est-ce qui explique qu'on a entendu si peu de femmes? C'est à cause du délai de prescription, notamment. Ouais. Donc, quand les faits, ça remonte à trop loin, on ne peut plus entendre de témoignages. Le fait aussi que certaines femmes, il manquait de preuves, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui.
Mais non, c'est un peu dans la même logique si on veut que le procès d'Éric Salvaille. On a entendu toutes sortes d'allégations. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Il y a des rumeurs, il y avait des histoires dans son gym, entre autres. Il y avait toutes sortes d'histoires qui étaient sorties, mais au
procès. Et même des gens du milieu, en fait, des gens qui l'ont côtoyé, ont dit, des vedettes, là, ont dit qu'elles ont été témoins de comportements déplacés, parfois même lors de réunions d'équipe. Mm-hmm. Donc, c'est pas...
Il y a eu beaucoup de choses entendues, mais il reste que c'est seulement Donald Duguay donc, qui a témoigné lors du procès qui s'est tenu la semaine dernière, dont on attend encore, là, évidemment, les délibérations et tout, mais...
Des parallèles à faire ici avec toute cette histoire, effectivement. On va continuer avec le chemin de fer, donc une mise à jour sur ce qui se passe là, au niveau du blocus ferroviaire qui continue de paralyser les lignes un peu partout au pays où c'est démantelé. Qu'est-ce qui se passe avec
Il y a eu certains blocus, entre autres celui de Saint-Lambert, près d'ici, qui a été démantelé tant que vendredi là, en soirée. Les policiers là, qui ont resserré un étau autour de ce blocus-là, qui ont discuté longuement avec les manifestants qui étaient là, qui ont décidé de partir finalement sans arrestation, sans violence, sans qu'il soit nécessaire d'usage de force pour les passer de là. Mais c'est pas fini. Là, ce matin, il y a des manifestants qui ont stoppé la circulation une dizaine de minutes près du pont Mercier. Des véhicules qui étaient affublés de drapeaux là, aux couleurs des Premières Nations, qui se sont immobilisés dans un des accès qui menait au pont en direction de Montréal. Mm-hmm. Ensuite, ils ont repris la route en klaxonnant lentement. Il y avait d'autres manifestants qui circulaient à pied près du pont. Maintenant, on dit que ce serait des routes près dans les environs d'Oka qui seraient bloquées, entre autres la route 344. L'hélicoptère TVA, d'ailleurs, est en route pour aller prendre des images de tout ça. C'est le 19e jour de blocus. C'est le 19e jour de blocus. Et d'ailleurs, c'est en Ontario qu'il y a une intervention ce matin, là, une des premières véritables interventions pour mettre fin au blocus.
Musclé ou non?
Il y a eu des arrestations. Il n'y a pas eu l'air d'avoir trop de résistance des protestataires par rapport à leur arrestation, mais il y avait un ultimatum qui avait été lancé hier par la police provinciale de l'Ontario pour inciter les manifestants à lever leur barricade. Il y avait jusqu'à minuit hier pour le faire, mais ils ont décidé de braver ces interdictions-là parce qu'ils disaient, eux, que les barricades obstruaient pas physiquement les voies. Ils disaient qu'ils se trouvaient sur le territoire établi en 1793 par un traité, qu'ils avaient donc le droit. Quoi qu'il en soit, il y a des manifestants qui ont été menottés. Mm-hmm. Aujourd'hui, des dizaines de policiers là, qui ont tassé ce blocage-là qui avait lieu à Belleville, en Ontario.
D'accord. Et dis-moi, du côté du fédéral, est-ce qu'on a plus de nouvelles là, du côté du gouvernement Trudeau par rapport à une sortie de crise avec les Autochtones? Qu'est-ce qu'on doit surveiller?
Toujours encore, évidemment, Justin Trudeau qui a demandé, là, on s'en souviendra, vendredi, à ce que les barricades soient levées. Ouais. On a parlé d'usage de la force, mais là, il y en a toujours, comme je dis, qui sont en cours. Mm-hmm. Toujours à Kanawake, entre autres, il y a encore des Mohawks qui bloquent les rails là-bas. La ligne du Mont-Saint-Hilaire, par contre, a pu reprendre, elle. Mm-hmm. La ligne de Candiac ne peut pas, entre autres, à cause de ce blocage-là, à Kanawake. Mais celle là, qui a été reprise, là, d'ailleurs, là, les voies du CN à Tien-Dinaga, celle dont on parlait un peu plus tôt en Ontario, c'était celle qui était le plus dommageable pour l'économie canadienne. Okay. C'est celle qui se rend du sud de l'Ontario au Québec, au maritime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle, mais c'est pas...
Pour les gens de l'industrie,
Ouais, c'est pas terminé. Faut dire que la GRC a obtempéré vendredi dernier à une des principales demandes. Se sont retirés du territoire des Wet'suwet'en. Il semblerait que ça ne satisfasse pas l'ensemble des manifestants. Bref, une situation qui se poursuit. 19 jours de blocus partout au pays.
C'est évidemment un dossier qu'on n'aura pas le choix de continuer à suivre. En attendant, il y a autre chose aussi qui retient notre attention. Un autre dossier qui est inévitable parce qu'il y a eu un vent de panique au cours de la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'une femme avait utilisé les services de Air Canada pour se déplacer au pays, une femme qui aurait testé positif pour le coronavirus, on a cru comprendre.
Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. Puis cette nouvelle-là vient s'ajouter à celle aujourd'hui. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé le monde entier à se préparer à une éventuelle pandémie. Donc, message un tantinet inquiétant.
tantinet, tu dis.
Oui, lui qualifie en tout cas la situation de très préoccupante.
Mais toi, c'est une pandémie. Je veux dire, le Zika, c'était une pandémie. famille, puis il n'y a pas personne là, qui est né là, avec un...
Oui, mais donc, ça réagit, cette nouvelle déclaration-là, à l'augmentation là, assez soudaine, explosive. C'est de nouveau qu'en Italie, en Corée du Sud et en Iran, entre autres, qui inquiète. Ça a reculé en Chine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fluctue depuis un bout. Là, c'est 77 000 personnes, le chef officiel, qui sont infectées. L'OMS qui s'est rendu à Wuhan là, pour une première fois. Ils ont dit que là, ça descend graduellement le nombre de nouveaux cas. Ils ont félicité la Chine de leurs mesures drastiques aussi de quarantaine. S'entend qu'il n'y a pas grand régime sur la planète qui ont la force et les moyens nécessaires pour mettre en quarantaine des dizaines de millions de leurs propres citoyens.
Ils ont l'habitude de mettre des gens dans des centres de détention contre leur gré, donc je pense qu'il faut saluer. Il y a une utilité à tout ça, finalement.
C'est construire les hôpitaux rapidement et tout, là, c'est certain que ça peut être une force de certains régimes autoritaires. Oui. Là, on peut le saluer.
Je parle, entre autres, du camp d'internement pour les Ouïghours, où est-ce que, justement, le risque de propagation de la maladie fait craindre le pire aux autorités.
Les chiffres sortiront pas de là. Hein?
Jamais. On n'aura jamais d'informations sur le nombre de persones infectées par le coronavirus.
On risque pas d'être éclairé du tout.
Dans ces camps de détention, là.
Oui, mais en Italie, là, je parlais de la situation qui a augmenté. Il y a déjà 5 morts en Italie. Ça devient le pays le plus touché de l'Europe, tout de même. Ils ont mis un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes dans le nord de l'Italie pour éviter que ça se rende dans le reste du continent.
Oui, j'ai une amie qui est à Venise, pour le carnaval de Venise qui a lieu en ce moment. Et évidemment, ça attire énormément de touristes, n'est-ce pas? Eh bien, les festivités ont été interrompues parce que ça fait beaucoup de personnes étrangères dans un même lieu. Il y a des risques. Ouais. On sent un peu un vent de panique. Puis je pense qu'ils ne veulent lésiner sur aucun moyen. Ouais, donc, effectivement,
il y a 4 jours, il y avait 6 cas. Il y avait 6 cas déclarés en Italie, puis en 4 jours, c'est passé à 219 cas. Donc, c'est inquiétant. Du côté de l'Iran aussi, là, il y a 12 personnes qui sont mortes, mais c'est que seulement 64 condamnations. En Chine, on parle, dans l'ensemble de la Chine...
contamination.
En Chine, on parle d'un taux de mortalité qui est de 0,7% globalement, entre 2 et 4% à Wuhan. Là.
Oui, donc, parce que c'est ce qu'on oublie. Tu peux être contaminé, mais si tu ne vas pas nécessairement mourir si tu es contaminé.
Le taux de gens qui meurent est assez faible, mais en Iran, je dis c'est 64 cas, il y a eu 12 décès déjà, un taux de mortalité de presque 1 sur 5. Donc, c'est ce qui inquiète beaucoup en Iran. Est-ce qu'on parle de cas plus virulents, d'une mutation?
C'est pas confirmé encore. Simplement d'un manque de mesures sanitaires mises de l'avant parce qu'on a cru que la menace ne nous atteindrait pas.
Également
donc
possible.
C'est ça, pas réagi nécessairement aussi rapidement. Et là, Alex, on se fait plaisir, toi et moi. On est, pour ceux qui suivent les têtes enflées, toi et moi, on est deux nerds. Hein? Puis on aime ça parler d'affaires nerds ensemble. Et on n'a pas eu la chance jusqu'à présent parce que l'actualité, mon Dieu, nous tenait très occupés. Mais ça ne veut pas dire que ce dont on va vous parler en ce moment n'a pas de lien avec l'actualité. C'est juste que on va ailleurs.
Oui, puis pour nos plus fidèles auditeurs, moi, je fais une chronique dans l'émission de Richard Martineau tous les jeudis matins sur les théories du complot. C'est mon dada dans la vie. Là. Ça me fascine. Et là, un homme que je connaissais bien, pour l'avoir suivi sur toutes sortes de plateformes. Michael Hughes, 64 ans, cascadeur de profession, qui est décédé en fin de semaine. Une véritable tragédie, j'ose le dire.
Je veux pas rire, mais c'est parce que c'est tellement la mission. Reviens, est-ce que tu peux nous expliquer quel plan avait cet homme-là?
Cascadeur de profession, mais également astronaute amateur, hein, cet Américain-là, qui a construit dans son jardin une fusée propulsée à la vapeur avec un de ses amis.
Fusée faite maison.
Ouais, ben lui, vous l'avez sûrement déjà vu, là, parce qu'en mars dernier, il avait fait un essai qui avait été super remarqué. C'était construit une autre fusée. Il était monté jusqu'à 570 mètres d'altitude. Vous vous dites probablement, ben waouh, c'est fabuleux, c'est fantastique, une fusée maison. Quel astronaute
génial. Ne faites
pas
ça à la maison. Je veux juste le préciser quand même.
Ne le faites pas, mais reste que, moi, c'est le motif. Cette fusée, c'est le motif
qui est fabuleux. Le pourquoi de la chose.
Il voulait monter à 1500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde, mais bien faite, dans ses propres mots, en forme de frisbee. J'ai déjà parlé longuement de la Terre plate. Je suis dans plusieurs groupes Facebook de
Flat Earthists.
À des fins de recherche, bien évidemment, je n'y crois pas. Rassurez-vous, chers auditrices, auditeurs. Mais ce sont des personnes assez phénoménales. J'ai déjà entretenu une petite correspondance avec un Irlandais qui se disait géographe amateur puis qui m'écrivait en caps lock.
Géographe amateur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, je suis une géographe amatrice. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, mais lui, c'est que la vérité, puis toi, tu ne crois pas.
N'importe qui peut juste se proclamer géographe. N'importe quel métier, mais ajouter amateur après.
En anglais, sur les forums que je fréquente, il t'appellerait une globetard.
Comme parce que record, je crois que la Terre
que
tu est ronde.
La Terre est en forme d'accord, de globe. C'est quoi, totalement stupide. Écoute, il y a tellement de choses fabuleuses à dire au sujet de cette fameuse théorie du complot de la Terre plate.
Et
quoi
là, qu'il en soit, malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, semble-t-il. Ben, le doute persiste.
Mais sa fusée qui avait coûté 18 000 $ américains à construire en tout s'est envolée dans les airs et finalement, là, se serait écrasée. Et malheureusement...
As-tu vu la vidéo?
Oui, je l'ai vu rapidement.
C'est une tristesse. Hein? C'est, ouais, c'est pas le fun à regarder, honnêtement. Là,
non, non.
C'est,
puis on souhaite ça à personne, c'est certain. C'est rigolo, mais dommage que cet homme-là soit mort dans ce genre de circonstances-là.
C'est filmé, c'est entouré de gens aussi qui voulaient l'encourager. Ouais. Moi, j'ai ouï dire, il y a beaucoup de théories du complot par rapport à ça. J'ai ouï dire, entre autres, qu'il avait fait ça pour un stunt, que lui-même ne croyait pas nécessairement que la Terre était plate.
Ben, lui, c'est un cascadeur de profession à la base. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres motifs. D'ailleurs, il y avait eu un record Guinness en 2002. Il avait établi le record du plus long saut en limousine, 31 mètres.
Qu'est-ce qu'un saut en limousine?
Le plus long saut au monde en limousine. Tu sais bien que le livre des records Guinness, c'est truffé de...
Qu'est-ce que la limousine fait? Comment tu sautes?
C'est un jump. Un saut. On va faire du franglais de milléniaux.
OK.
Juste la traduction. Non, mais un gros saut à ski, là.
Ce monsieur-là avait beaucoup trop de temps. Il avait trop de temps.
Faut croire qu'il est mort en faisant quelque chose qu'il aimait et selon ses convictions. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà vu commencer à voir apparaître des petites notifications sur ces groupes-là disant que ce serait la NASA qui aurait saboté son engin.
Oui, d'accord.
Pour éviter qu'on découvre la vérité.
Les Illuminati, sans doute.
Enfin.
Et les reptiliens.
Ça se pourrait également. Vais enquêter là-dessus, la réponse prochainement.
Oui, merci beaucoup, Alexandre Morinville-Ouellet. C'était parfait comme tour d'horizon des actualités. Restez avec nous après la pause. On parle de violence conjugale. On va parler un peu d'intervention auprès des hommes sur ce sujet-là. Donc, restez des nôtres.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
Le quotidien Le Devoir propose ces jours-ci un dossier constitué de plusieurs articles sur la violence conjugale. Et dans l'un d'eux, on s'intéresse aux thérapies pour les hommes violents. Parce que c'est quand même ça, hein, le cœur du problème. On parle énormément des organismes qui sont là pour venir en aide aux victimes de violences conjugales. On parle des femmes, de la protection des femmes. Mais encore trop peu des ressources pour les hommes. Ceux qui sont identifiés comme étant à risque, ceux qui sentent qu'ils vont passer à l'acte ou qui l'ont déjà fait, les hommes en détresse, etc. Et là, c'est ce qui se passe. C'est que la violence en ce moment, la définition de la violence conjugale établie par le gouvernement du Québec ne fait pas consensus. Du côté des organisations pour hommes, on parle d'un problème qui a des origines multifactorielles, alors que du côté des groupes de femmes, on dit que cette vision-là va souvent déresponsabiliser les hommes. Donc, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les positions de chacun, on va parler avec deux intervenants. On reçoit d'abord Catherine Bolduc, directrice d'Option, qui est un organisme montréalais qui offre des services à une clientèle presque exclusivement judiciarisée. Elle est au bout du fil avec nous. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Vous êtes citée dans l'article du Devoir et de ce que je comprends, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la définition gouvernementale de la violence conjugale, voulant qu'il s'agisse d'un moyen de dominer une autre personne et d'affirmer son pouvoir sur elle, plutôt qu'une simple perte de contrôle, c'est ça?
Non, en fait, je souhaite vraiment rectifier cette première chose-là parce que cette notion-là de prise de contrôle sur l'autre, c'est pour nous, c'est effectivement une des intentions là qu'une personne qui a des comportements violents peut avoir. Donc la personne qui va bouder pour avoir du sexe, qui va exiger d'avoir le mot de passe de l'autre, qui va menacer de se suicider là si l'autre le quitte, c'est tous des moyens de prendre le contrôle sur l'autre. Pour nous, ça c'est clair, c'est évident. Par contre, on pense qu'il faut utiliser une variété de lunettes pour apprécier une variété de situations. Mm-hmm. Pour nous, on peut pas analyser, avoir une analyse unique à un phénomène qui est aussi complexe. Je suis toujours surprise hein, quand j'entends que on n'est pas d'accord avec la définition du gouvernement. Au contraire, pour nous, le travail premier qu'on fait avec ces hommes-là, ben c'est de les responsabiliser. Mais je pense que malheureusement, on confond la création du lien avec cette personne-là avec la complaisance. Mmh. On peut puis on doit s'intéresser à ce que vit la personne. Hein? La personne, elle peut nous raconter qu'elle se sent dépressive, qu'elle a des problèmes de consommation, qu'elle est blessée parce que sa conjointe l'a trompée. L'intérêt pour ce que vit la personne, ben, ça va nous permettre de nous approcher de son système de croyance qui va justifier le recours à la violence. Mm-hmm. Et ça nous permet ensuite de semer le doute à l'intérieur de ce système de croyance-là. On peut très bien aborder les difficultés que vit la personne et la rendre responsable pour ses comportements violents. Mm-hmm. Nous, en tout cas, à Option, on pense que la personne, elle est 100% responsable de ses comportements violents et on va pas acheter la théorie de l'autre que certains vont essayer de nous vendre. Là. Pour nous, la personne, elle a fait un choix, la violence, que d'autres ont pas fait. Mais encore faut-il comprendre pourquoi la personne a fait ce choix.
Mm-hmm. Donc, cette approche-là, trop édulcorée, vous vous détachez de ça. L'approche édulcorée qu'on reproche justement au groupe d'intervention auprès des hommes, où est-ce qu'on a l'impression, c'est ça, qu'on va chercher à les déresponsabiliser, vous tenez à vous dégager de ça totalement.
Ben, en fait, moi, je me demande d'où ça vient cette croyance-là qu'on édulcore. J'aimerais ça savoir d'où ça vient, parce que... c'est ça, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont affirmer ça? Ce que j'entends, c'est que il y a des gens qui vont dire qu'on va parler de gestion de la colère. Mm-hmm. Mais en fait, je suis d'accord avec le point de vue de mon collègue Quentin Desrosiers du service d'aide aux conjoints dans Le Devoir quand il dit que le gars qui se présente dans nos organismes en parlant de gestion de la colère, c'est un point de départ. On peut lui demander, par exemple, ben, ça a l'air de quoi, toi, quand tu gères mal ta colère? Et à partir de là, nous, on va pouvoir lui refléter que ce qu'il fait, en réalité, c'est de la violence. Mm-hmm. Donc, le gars, là, plus... le gars ou la femme, mais dans le fond, plus la personne va se sentir attaquée, plus elle va vouloir se défendre, puis plus on va monter en escalade avec elle. Pour nous, c'est pas une approche qui est gagnante. On va plutôt essayer de montrer que, dans le fond, il y a des grands désavantages pour tout le monde à utiliser la violence.
Mm-hmm. Et dites-moi, justement, parlez-moi des hommes là, qui sollicitent vos services. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur leur profil? Parce que vous travaillez auprès d'une clientèle judiciarisée. Est-ce qu'ils viennent de leur propre chef ou ils sont contraints de solliciter vos services?
Ben, en fait, ça dépend. Nous, à Montréal, puis c'est pas la même chose dans toutes les régions. Là, je sais que dans plusieurs régions du Québec, la majorité des gens qui vont venir dans leur service vont pas être contraints. Nous, à Option, la majorité, là, c'est ça, elle est contrainte par la Cour. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre ces personnes-là et dans leurs conditions, on leur demande d'aller chercher de l'aide pour leur comportement violent. Il y a des gens qui vont être référés chez nous par la DPJ parce qu'il y a eu un signalement qui a été fait, que ce soit parce qu'il y avait des comportements violents envers l'enfant ou que l'enfant a été exposé à de la violence dans le couple. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils disent « Moi, ça n'a plus de bon sens. Je suis pas bien avec les comportements que j'ai à l'égard de ma conjointe. Je veux changer. » Il faut dire aussi que c'est pas parce que la personne elle est contrainte qu'elle ne va pas avoir envie d'entreprendre une démarche de changement.
OK. Et dites-moi, parce que là, évidemment, vous, votre lunette, votre lentille, c'est celle des personnes judiciarisées. Mais moi, quand je regarde les cas qui se passent dans l'actualité, on parle souvent d'hommes violents qui sont pas dans le système, qui ont aucun bagage criminel. Souvent, on va dire que c'est des hommes, justement, qu'on n'avait pas vu venir. Toute la violence à l'égard de leur famille, de leur femme, qu'on ne soupçonnait pas, en fait, une once de violence chez eux. Donc, tu sais, ce réflexe-là de parler de perte de contrôle, quand on sait justement que les cas rapportés dans les médias, c'est souvent ça la défense de ces hommes-là. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que vous travaillez avec une clientèle totalement différente, là.
Mais c'est en fait ça c'est dans leur système de croyance qu'ils ont perdu le contrôle, parce mm-hmm. que c'est beaucoup moins souffrant pour eux de se dire ben j'ai perdu le contrôle, hein. Alors que pour nous, puis c'est justement en leur demandant de nous expliquer la scène, de nous expliquer ce qui s'est passé, ben qu'est-ce qui se passait pour vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit. C'est comme ça qu'on va être capable justement de lui refléter dans le fond que c'était pas tant une perte de contrôle qu'une prise de contrôle.
Mm, d'accord. OK. Et puis dites-moi, tu sais, la violence des hommes violents en général, là, que vous la percevez, vous avez parlé tantôt du système de la DPJ, entre autres, vous parlez d'hommes qui ont connu des violences quand ils étaient plus jeunes. Est-ce que c'est vraiment ce profil-là? Est-ce que tout le monde qui est violent, on peut dire que c'est parce qu'ils ont subi de la violence là, quand ils étaient plus jeunes? Je pense que c'est quand même assez réducteur aussi, non?
Je ne pense pas qu'on peut dire qu'une personne est violente parce qu'elle a vécu de la violence. Je pense pas que c'est la façon la plus juste. Ce qu'on peut dire, c'est que la violence, puis ça, les études, je veux dire, sont unanimes. Un enfant qui va vivre la violence, qui va être exposé à la violence, va avoir des séquelles, ça va avoir un impact sur son développement. Parce que, par exemple, le modèle qu'il va avoir eu, c'est un père qui tape sur sa mère, par exemple. Puis il va se dire, c'est comme ça que ça devrait se passer dans un couple. Ce qu'on veut dire, quand je dis que la majorité des hommes et des femmes qui viennent nous voir, ils ont vécu de la violence, c'est pour expliquer un petit peu dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mais c'est pas parce qu'on a souffert qu'on peut faire souffrir les autres. C'est, mm-hmm. pas, c'est pas une défense, c'est pas une justification. Mais ça nous permet de comprendre d'où la personne arrive et qu'est-ce qui peut se rejouer de son passé dans sa relation actuelle.
Donc, ça sert à comprendre et pas à excuser. Je comprends mieux maintenant. On sait en ce moment que le financement qui est octroyé aux organisme qui aide les hommes est passé de 355 000 $ en 2017-2018 à 2,4 millions de $ en 2019-2020. Évidemment, on se réjouit de ça, c'est sûr. Mais en même temps, de ce qu'on apprend dans Le Devoir, c'est qu'il n'y a aucune norme pour encadrer en ce moment les thérapies. Il n'y a aucun suivi. Bien, en fait, la majorité d'entre elles n'offrent aucun suivi au terme de la thérapie non plus. Donc, d'avoir ces sommes-là d'argent investies sans qu'on se soit entendu sur des façons d'intervenir adéquates auprès des hommes, sans avoir un consensus sur la meilleure façon d'intervenir. J'imagine que vous compreniez quand même la grogne des groupes de femmes qui, eux, demandent aussi des sous de leur côté.
Ben, un exclut pas l'autre. Il est évident que les groupes qui viennent en aide aux femmes doivent être financés. Je veux dire, c'est inacceptable qu'il y ait des femmes qui appellent à SOS violence conjugale parce qu'elles veulent sortir de la maison puis elles veulent être hébergées, qu'ils ne puissent pas être reçues dans une maison d'hébergement faute de place. Pour moi, là, c'est un n'exclut pas l'autre, là. Et c'est là, je pense que idéalement, parce que ce que je comprends, c'est que il y a une tarte, puis peut-être qu'on peut avoir l'impression que si on en donne un on donne de l'argent à un, on en enlève à l'autre. Et mm-hmm. moi, je pense que au gouvernement, l'équation ne devrait pas être ça. C'est qu'on en donne à un comme à l'autre, tu sais, parce que c'est pertinent, là, tu veux dire, ça, mm-hmm. c'est incontestable. Là.
Mais au niveau de l'absence de normes, là, de consensus sur les meilleures façons d'intervenir, ça, quand même, c'est préoccupant de savoir que c'est quasiment des chèques en blanc qu'on vous donne sans aucune reddition de compte quant au succès, ensuite, des thérapies que vous faites auprès de votre clientèle.
Ben en fait, je trouve que c'est une question intéressante, le succès, parce que on parle hein, d'une démarche que personnelle pour essayer justement de changer. Si on regarde, puis là je fais pas un parallèle, tu sais, le parallèle que je vais faire là, c'est que quand on entreprend une démarche personnellement pour changer des choses dans sa vie, on va voir un psychologue, on va voir un travailleur social. Est-ce qu'on peut dire, vous savez, dans un mois, dans deux mois, vous allez être guéri, tout est beau, vous n'aurez plus jamais le comportement sur lequel vous travaillez. Évidemment, non. Le travail sur soi, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne prétend pas qu'au terme d'un suivi de 21 semaines, la personne aura plus de comportement violent. Ben non, ça serait de mal connaître et comprendre le processus évolutif d'un individu. Donc, effectivement, souvent, ces personnes-là, ben, vont devoir travailler sur elles toute leur vie, revenir nous voir. Et ce qui est bien, c'est que si on a créé un lien assez important avec ces personnes-là, ben elles n'hésiteront pas à revenir nous voir et à demander de l'aide.
Donc, un premier pas dans la bonne direction. Merci, Catherine Bolduc. Je rappelle, vous êtes directrice de l'organisme d'aide Options. On va maintenant parler à Manon Monastès, qui, elle, est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Madame Monastès, vous êtes au bout du fil?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que vous avez pu entendre l'entrevue avec Catherine Bolduc?
Non, malheureusement, j'entendais pas.
D'accord.
Non.
Essentiellement, ce qu'elle disait, en fait, c'est qu'elle n'était pas son organisme, entre autres, et les organismes qui viennent en aide aux hommes ne sont pas contre la définition proposée par le gouvernement. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des raisons multifactorielles à la violence conjugale qui expliquent le comportement violent de certains hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
Mais effectivement, mais ce ne sont pas des causes, ce sont des facteurs qui peuvent déclencher la violence. Qu'on parle de perdre son travail, des problèmes de santé mentale, de consommation et autres problématiques, ce ne sont pas les causes de la violence, mais bien des facteurs déclencheurs. C'est pas tous les hommes qui ont des problèmes de consommation ou qui viennent de se séparer ou qui viennent de perdre leur travail qui tuent leurs conjointes et leurs enfants, là, on s'entend bien. Justement, c'est ça les écarts qu'on a dans la vision et de la définition. C'est que nous, on parle de cause de la violence conjugale et fondamentalement, ce sont des rapports de pouvoir, de domination d'une personne sur une autre. Malheureusement, c'est principalement des hommes sur des femmes et non pas de causes qui peuvent être des facteurs déclencheurs. Et puis là, je veux bien dire que la politique d'intervention en violence conjugale du gouvernement, elle est en phase, elle est en accord avec la déclaration pour l'élimination des violences faites aux femmes, qui est la déclaration de l'ONU et qui a été ratifiée en 1993 par une centaine de pays où est-ce qu'on s'entend très bien sur le fait que quand on parle de violences faites aux femmes, dont la violence conjugale, on parle de rapports de domination des hommes sur les femmes qui s'inscrivent dans des sociétés qui sont des sociétés patriarcales où les hommes ont plus de pouvoir que les femmes. Et ça se répercute aussi dans leurs relations intimes.
Oui, mais me semble quand même la question de la détresse des hommes en général, me semble qu'elle mérite quand même qu'on s'y attarde, parce qu'on ne peut pas simplement parler du conditionnement dans les rapports hommes-femmes. Il faut aussi prendre en compte que les hommes, souvent dans ce conditionnement, finissent par être victimes parce qu'ils n'ont pas de lieu pour se confier, de lieu pour extérioriser leurs émotions. Donc, ils sont un peu victimes de ce système-là aussi.
Ben, écoutez, là, on est à un autre niveau. On parle de la socialisation des garçons et des filles, où est-ce qu'on dit oui aux garçons, il faut être fort, il faut être solide et tout ça, et qu'on dit aux filles, ben, il faut être à l'écoute. Alors, vous comprenez quand même que dans la structure, on voit encore des rapports, des stéréotypes qui vont influencer la socialisation des hommes et des femmes. Mais il faut bien comprendre que il y a aussi des services pour les hommes, que ce soit les CLSC, il existe des services pour les hommes et il y a bien sûr des services pour les hommes qui ont des comportements violents, mais ces services-là n'offrent pas que des services pour les hommes qui ont des comportements violents. Ils offrent aussi des services pour les hommes en difficulté. C'est très bien, mais il faut pas mélanger les deux profils qui sont quand même très différents, et ça a été démontré dans de nombreuses études. Quand on parle d'un homme qui a des comportements violents, on parle de quelqu'un qui veut exercer à tout prix le pouvoir et le contrôle coercitif, là. Mm-hmm. Il va contrôler sa conjointe et ses enfants sur tous les plans, même ce qu'ils pensent et même ce qu'ils font dans une journée. Et c'est un contrôle qui est absolument total, là. C'est un autre profil que de dire quand un homme est en détresse, a des problèmes de communication, tout ça. Il ne faut pas mélanger les deux. Là, on parle vraiment de des profils qui sont très différents.
Mais en même temps, Madame Monastès, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour intervenir auprès des hommes, on ne peut pas tenir un discours accusateur ou culpabilisant. Ce n'est pas la meilleure façon de les amener à reconnaître qu'ils ont un problème. Et quand je regarde votre position et celle de Mme Bolduc, je n'ai pas l'impression que c'est incompatible parce que dans les deux cas, on parle d'hommes qui ont fait le choix d'être violents. Donc, je me demande finalement si c'est pas juste un débat sémantique qu'il y a en ce moment du fait qu'on s'entend pas, mais finalement, on a le même objectif, c'est-à-dire d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
Oui, mais c'est pas un discours accusateur. C'est un discours qui reconnaît les rapports sociaux, l'influence des rapports sociaux sur la détermination de la personnalité des hommes et des femmes. Et on n'est pas le seul pays au monde là où il y a de la violence envers les femmes. Là, c'est quelque chose de pandémique. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de relations intimes, de la violence contre les hommes. Là, on parle pas d'une pandémie, mais qu'est-ce qui fait que ce soit une pandémie? C'est qu'on a quand même des sociétés qui permettent, qui tolèrent la violence envers les femmes. Et là, on peut inscrire la violence conjugale dans une perspective globale de violence faite aux femmes. Et ça, il y en a dans tous les pays du monde. Mmh. Alors, il y a quelque chose dans la structure de nos sociétés qui permet. On parle que les sociétés vont permettre la violence. Oui, elle est socialement acceptée, mais individuellement choisie, tout à fait. Mm-hmm. C'est pas un discours accusateur. C'est vraiment en ayant cette perspective-là qu'effectivement, on va pouvoir mieux intervenir auprès de ces conjoints-là, d'avoir pas seulement la vision à un niveau individuel, mais également à un niveau de tenir compte aussi des rapports sociaux de façon globale. Mm-hmm. Et puis, écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Je me souviens très bien que dans les années 80, on travaillait en étroite collaboration avec les services pour les conjoints ayant des comportements violents, où est-ce qu'on était vraiment dans une perspective de responsabilisation. Puis ça veut pas dire les écraser. Ça veut dire de les amener à se responsabiliser vis-à-vis leur comportement violent, puis de voir l'impact sur les enfants aussi.
Mm-hmm. Sauf que la société a quand même changé depuis les années 80 et les facteurs qui peuvent influencer ce conditionnement dans les relations hommes-femmes se transforment aussi. Et moi, je reviens à la charge là, très rapidement là, avant de conclure sur cette intervention. Vous avez parlé des CLSC tout à l'heure. Moi, quand je regarde du côté des CLSC, peut-être que c'est parce que les services ne sont pas adaptés à la réalité des hommes, à la façon de communiquer des hommes pour expliquer, dans le fond, ce qui les amène à considérer la violence comme un choix adéquat là, en société. Tu sais, je pense que d'avoir une approche qui est personnalisée en fonction de la clientèle, c'est quand même souhaitable. Donc, on peut pas intervenir de la même façon qu'on intervient auprès des femmes que des hommes. Donc, c'est normal qu'on aille chercher ailleurs dans les définitions, non? Pour les mettre en confiance, pour établir un lien. Je fais l'avocat du diable, on s'entend.
Oui, je comprends très bien. Mais la politique a stipulé une définition, comme je vous dis, qui est en phase avec la déclaration de l'ONU, qui a été signée par une centaine de pays.
Mais ça, c'est la théorie.
Oui,
mais dans les
principes directeurs de la politique, c'est bien écrit que toute intervention doit aussi responsabiliser les hommes. Mais comme je vous dis, la responsabilisation, c'est comme la première étape. Par la suite, c'est aussi de leur apprendre et de leur faire comprendre et qu'ils puissent intérioriser des meilleurs comportements dans une relation égalitaire, parce qu'il y a de la violence quand il n'y a pas d'égalité, ni dans le couple, ni dans la société. Alors, il y a des programmes en Ontario, là, tous les groupes pour conjoints ayant des comportements, ils sont sous la responsabilité du ministère de la Justice, qui a un programme qui est normé et qui dit que la première chose qu'on doit viser, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, comme je le dis, c'est pas de leur taper sur la tête à l'infini là. Ça c'est vraiment parce que le problème fondamental, c'est que les conjoints qui ont des comportements violents ne se reconnaissent pas comme violents.
Donc une vision
que les victimes dans un premier temps se reconnaissent très peu comme victimes de violence parce qu'elles ont intériorisé le fait que c'était tout à fait normal.
Ouais, voilà.
Et elles vont pas plus demander de prime abord quand elles nous appellent, elles nous disent pas je suis victime de violence conjugale. Elles remettent tout en question. Elles disent c'est peut-être moi qui l'ai provoqué. Elles ont intériorisé le discours aussi qu'elles sont responsables. Alors c'est pour ça qu'il faut défaire ces discours-là et qu'il faut avoir une approche comme en Ontario. Je veux dire, si les services ne respectent pas les normes qui ont été établies, ils peuvent se faire couper leur financement. Et alors, les normes sont très bien établies, ce qui n'est pas le cas ici au Québec. Un groupe pour conjoints violents dans une certaine région qui, et là, on parle de violence.
Madame Anastas, oui. Donc, le temps nous manque, malheureusement, mais on sait que, bon, le gouvernement est en train de travailler sur le dossier, s'intéresse quand même à la question. On comprend que du côté des groupes de femmes et des groupes d'intervention auprès des hommes, il y a une vision différente, mais un objectif commun, soit d'enrayer la violence conjugale. Si on n'a pas le temps de se reparler, Madame Monastès, je vous rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Vous serez avec nous là au lendemain du dépôt du budget provincial le 11 mars prochain à l'émission de Benoît Dutrisac pour réagir aux montants qui seront débloqués ou non par Québec. Donc, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui.
Ben, merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Les effronter.
Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
Alors, on va parler de circulation automobile. En fait, on va parler d'automobilisme, de civisme, de courtoisie. Évidemment, moi, c'est un sujet qui me rejoint pas totalement parce que je me plais à le répéter sur les ondes de Cube Radio. Je suis une fière piétonne. Je n'ai pas encore mon permis de conduire. Mais malgré moi, je me retrouve souvent témoin, impossible d'intervenir dans certaines situations là, de confrontation entre des automobilistes en lien avec des usagers de la route qui respectent de moins en moins les distances sécuritaires entre deux véhicules au Québec. C'est des experts qui estiment ça. Puis on parle de tout ça, évidemment, à la lumière de tous les carambolages qui sont survenus là, au cours des derniers jours. On reçoit Jean Balthazar, qui est producteur de contenu pour Tabloïd et Journal de Montréal, qui signe un article sur le sujet aujourd'hui. Salut, Jean.
Allô, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Que nous disent les experts au sujet là, des distances sécuritaires?
Bien, effectivement, ils nous mettent vraiment en garde sur le fait de respecter ces distances-là. Surtout l'hiver, évidemment, on a des conditions météorologiques plus difficiles, donc la circulation peut être plus problématique. Fait que c'est vraiment de respecter cette distance-là qui n'est pas claire à 100% dans le sens qu'elle va varier selon plusieurs facteurs, dans le sens qu'on ne peut pas déterminer 10 mètres, c'est la distance parfaite de sécurité. Souvent, la règle générale, on compte, la règle familière, là, si on veut, c'est qu'on compte une espèce de 3 secondes. C'est ça que propose la SAA Québec, en fait. Puis 3 secondes de distance entre deux véhicules. Fait qu'on se prend un point sur la route, puis si on atteint le même point 3 secondes après le véhicule qui est devant nous, ça devrait être sécuritaire. Fait qu'en fait, comme tu le dis, Vanessa, les experts nous mettent en garde parce que justement, il y a eu beaucoup de carambolages. Ces carambolages-là, en fait, on peut pas non plus dire exactement les causes exactes pour ces carambolages-là, mais en fait, le problème, c'est que quand il y en a des carambolages, des accidents mineurs, souvent, de garder une distance sécuritaire, ça peut améliorer les choses. Mais en fait, ça peut empêcher que ça dégénère rapidement, tu sais, de passer d'un accident mineur à un gros carambolage comme on a vu sur l'autoroute 15 avec 200 véhicules. Fait que c'est pour ça que les experts mettent en garde, là, ceux que j'ai contactés, nous mettent en garde de ce respect-là qui, dans le fond, de moins en moins présente les usagers de la route.
Est-ce que les experts, puis là, je te le demande, peut-être que t'as pas la réponse, est-ce qu'on sait pourquoi les gens sont moins prudents, sont plus téméraires, sont distraits, ils ont des appareils entre les mains, ils écoutent de la musique. Est-ce qu'on y a une raison qui explique ça ou c'est juste...
Au Québec, en fait, il y a plusieurs facteurs. Fait que c'est dur de mettre le doigt sur un facteur précis. C'est sûr que les distractions au volant, ça aide pas. Il y a l'urgence aussi. On est de plus en plus pressé. On veut arriver à son domicile ou à son travail le plus rapidement possible. Fait qu'il y a différents facteurs, mais ça fait en sorte qu'effectivement, il n'y a pas cette distance-là. Puis ça, c'est problématique, surtout sur les autoroutes, parce que souvent, ben, ça crée le... J'ai juste l'expression anglaise, là, mais l'espèce de stop and go qu'on a, le fait d'arrêter subitement puis de repartir rapidement. Puis ça, c'est problématique. Là, en anglais, c'est un phénomène qui a beaucoup été étudié. Ça s'appelle le tailgating. Okay. Mais effectivement, le fait de
coller au cul de l'autre, on va se le dire, c'est ça l'expression québécoise.
Exactement.
Coller au cul de l'autre. On a parlé beaucoup là, dans les images des carambolages, évidemment. On a vu qu'il y avait beaucoup de voitures, mais aussi beaucoup de camions lourds. Et toute la discussion là, suivant ces carambolages-là, c'est concentré là-dessus pas mal. Sur le fait que c'est parce qu'il y a des poids lourds, là il faut faire attention, l'augmentation de ces véhicules là sur nos autoroutes, c'est ça qui cause des accidents, mais c'est pas nécessairement ça que les experts nous disent, là.
Non, effectivement, on met souvent la faute sur les camionneurs parce que évidemment c'est des images saisissantes quand on voit un poids lourd par exemple frapper une automobile, mais en fait selon une analyse de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, là, dans la majorité des accidents impliquant au moins un véhicule lourd, ça serait les autres usagers de la route qui seraient les responsables. Fait qu'il faut pas automatiquement pointer les camions. C'est sûr que, par contre, quand il y a un camion, un véhicule lourd qui est impliqué, il y a des conséquences qui sont beaucoup plus grandes, évidemment, de par son poids, un véhicule lourd va faire peur aux usagers de la route. On a tous eu ce sentiment-là quand on conduit, ben pas toi, Vanessa, mais
jamais.
En fait, tout le monde, la majorité des usagers de la route, quand on est dans un petit véhicule, un véhicule léger, puis qu'on se retrouve coincé entre deux véhicules lourds, à gauche, à droite ou en avant, en arrière, c'est sûr qu'on devient plus stressé. Fait qu'effectivement, c'est pas de la faute des camionneurs, mais ça donne un sentiment d'insécurité, puis ça fait en sorte que c'est ça, on met souvent le blâme sur quand il arrive des gros accidents du genre. Moi, j'ai lancé la discussion sur notre groupe Facebook.
Ben oui,
on a un groupe Facebook qui s'appelle Dans le trafic, qui réunit plein d'usagers de la route. À savoir,
pas juste des automobilistes, on le rappelle,
non,
tous ceux qui partagent la route, donc des piétons, des cyclistes, conducteurs de poids lourds, de transports en commun également, donc assez varié comme groupe.
Exact, on voulait réunir en fait tous les usagers pour créer des dialogues. Puis, il y avait des idées intéressantes à propos des poids lourds. Par exemple, on disait de les garder simplement dans la voie de droite, de réduire leur vitesse à 90 km à l'heure. C'est des mesures qui se font déjà en France. D'ailleurs, j'ai parlé à une professeure qui s'appelle Michel Saint-Jacques de l'ETS, là, l'École supérieure de technologie.
Ouais, l'École de technologie supérieure,
effectivement.
Ouais, voilà.
Qui me disait que c'est des mesures efficaces qui, en fait, sont peu dispendieuses. Donc, on pourrait les appliquer. J'ai relancé le MTQ sur la question. Il me disait qu'il n'y a pas encore assez de... Le ministère du Transport du Québec. Puis, il me disait que il n'y a pas assez de preuves encore pour justifier de telles mesures selon eux. Mais quand même, c'est des avenues intéressantes. Je parlais à un camionneur, ça, je trouve ça vraiment intéressant, qui disait qu'au Québec, on a souvent tendance à ne pas fermer des routes quand il y a des conditions météorologiques très intenses, très mauvaises, comparativement par exemple à des États aux États-Unis.
Mm-hmm.
Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, une grosse pression. On l'a vu, il y a eu une grosse tempête là, il y a environ 3 semaines, le 6-7 février. Puis il y a eu plus de 1000 accidents. Ça fait en sorte que, justement, on a l'impression que dès que la météo est mauvaise, on veut garder absolument les routes ouvertes 24 heures sur 24.
Ouais.
Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça puis se dire un instant, est-ce que ça vaut la peine de garder l'autoroute fermée quelques heures, mais justement pour éviter des accidents puis préserver des vies humaines?
Mais ça, c'est tout un changement de société qu'il faudrait faire parce qu'il faudrait justement retirer ces camions-là de la route. C'est une décision qu'on doit prendre collectivement.
C'est une décision économique aussi. Là,
voilà,
je veux dire, fermer des routes, tu prives des camions de circuler. Puis
on le voit avec la crise ferroviaire, qu'il y a des impacts, évidemment, là, au ralentissement de la circulation là, des camions de marchandises et autres.
Ouais,
donc,
vraiment.
Merci beaucoup, Jean Balthazar. Je le rappelle, tu es producteur de contenu pour Tabloïd et également pour le Journal de Montréal, où tu travailles là, pour la section Dans le trafic. Donc, très éclairant tout ça.
Merci, Vanessa. Bye-bye.
Les effrontés.
2 heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
On revient sur cette histoire maintenant abracadabrante parue dans le journal ce matin. C'est une histoire de corruption. Un groupe d'entrepreneurs affirme avoir versé plus de 30 000 $ en argent comptant depuis 17 ans, OK, à Guy Huot, un architecte d'Hydro-Québec qui a aidé ses entrepreneurs en contrepartie à faire de bonnes affaires auprès de la société d'État. Le bureau d'enquête a même été témoin de la remise d'une somme d'argent, d'une enveloppe de 500 $ à cet homme. Pour parler de l'enquête, on reçoit Jean-Louis Fortin, chef du bureau. Donc, Jean-Louis, my God, il est au bout du fil avec nous. Cette histoire-là, c'est impossible. Allô? Écoute, possible de la résumer un peu pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu passer le dossier?
Oui. André Dansereau, donc, qui est un entrepreneur, lui, son entreprise fabriquait, hein, parce qu'il n'est plus associé à cette entreprise-là, mais il fabriquait de la peinture industrielle. Pas de la peinture que tu mets sur les murs chez vous, mais de la peinture, par exemple, pour un plancher de centrale hydroélectrique. Lui, mm-hmm. nous contacte et dit, écoutez, je suis en fin de carrière, je veux une vie délicate. Ça fait des années et des années que je donne des pots de vin à un architecte d'Hydro-Québec. Là, tu peux comprendre qu'au début, on était sceptiques. T'sais, ah oui, mais comment tu peux nous prouver ça? Ben, là, lui-même nous a proposé, écoutez, je suis encore en contact avec lui, il s'appelle Guy Huot, c'est un architecte, il travaille pour Hydro. Encore aujourd'hui, une fois de temps en temps, j'y remets des pots de vin, puis la prochaine fois que je le vois, ben, on pourrait le filmer. C'est lui qui nous a proposé de l'accompagner à une remise de pots de vin, une remise d'enveloppe.
Ça se peut pas. Voyons.
Et là, ben, vous le voyez ce matin dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, également sur TVA, les images de caméras cachées. On l'accompagne au restaurant, il est muni d'une caméra cachée. Guy Huot, l'architecte, ne se doute de rien, prend l'enveloppe avec 500 $ comptant, la met de la cache dans son manteau, les bons comptes font des bons amis. Moi, Vanessa, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur des dossiers justement de corruption, des enquêtes là-dessus, et c'est la première fois que je vois, pas en direct, mais à la caméra, une remise de pots de vin, c'est-à-dire à quel point c'est rare. Même en commission Charbonneau, on voyait les mafieux se mettent de l'argent en bas, mais on ne voyait pas directement l'échange, hein, la contrepartie.
Mais
là,
oui,
je te donne
incroyable.
Une enveloppe en échange d'un service. Donc, c'est des images vraiment exceptionnelles. On voit pas ça tous les jours, une corruption alléguée d'un fonctionnaire public, de quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, qui est censé avoir l'intérêt des payeurs de taxes, l'intérêt des citoyens à cœur, mais qui préfère se mettre une enveloppe d'argent dans les poches.
Ben oui, parlons-en là, de cet homme là qui veut s'en mettre plein les poches. Qui est Guy Huot là? Est-ce qu'il y avait un rôle important chez Hydro-Québec?
Guy Huot n'est pas au conseil d'administration, n'est pas au comité de direction. C'est pas quelqu'un. On peut pas le qualifier de haut cadre de la société d'État. Mais en tant qu'architecte, quand même, ce qu'il a comme pouvoir, c'est au niveau des contrats, c'est qu'il peut, par exemple, dire dans le devis que j'ai fabriqué, dans la liste des matériaux qui sont acceptés, par exemple une peinture, ben tel produit, dans le cas-ci le produit Acrivicon, c'est autorisé. Donc, moi, comme professionnel de l'architecture, je considère que ce produit-là, ça fonctionnerait bien dans nos centrales, ça répond à nos normes, ça répond à nos standards. Et à partir de ce moment-là, ben, Acrivicon pouvait faire affaire avec la société d'État. Donc, c'est un peu lui qui donne le feu vert pour qu'Hydro-Québec utilise un produit. Mm-hmm. Ça a l'air banal. Sauf que si il y a 17 ans, une intervention a été faite, puis depuis ce temps-là, la compagnie peut faire affaire avec Hydro,
ben oui.
On comprend que c'est des contrats quand même qui peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars. Là.
Ben oui.
Donc, au fil des années, ça s'accumule. Donc, Guy Huot n'est pas, tu sais, c'est pas de la grande corruption au plus haut niveau de l'appareil.
C'est
de
un
l'État.
Petit magouilleur.
Ben, c'est certainement assez pour contaminer le système d'appel d'offres qui devrait, en tout cas, c'est Hydro-Québec, hein, Hydro-Québec, là, c'est 20 000 employés.
Ben, c'est ça.
L'État dans l'État, c'est pas rien, là. Donc, on s'attendrait à ce qu'il soit plus blanc que blanc. Et vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Et
imaginons, là, s'il y en a d'autres comme lui. Écoutez, est-ce qu'on peut, les projets sur lesquels il a travaillé, est-ce qu'on a des exemples, justement, de pots de vin qu'il aurait reçus, là, qui auraient permis de faciliter le développement de certains projets?
Lui, ce que André Dansereau, l'entrepreneur, nous révèle, c'est que le premier pot de vin qu'il dit avoir donné, c'était un 5 000 $, c'était pour que son produit soit homologué. ça a fonctionné, selon lui. Et ensuite, il y a plusieurs projets. Il dit avoir donné des pots de vin à 6 reprises, sur la Côte-Nord, entre autres, Outarde 3, Outarde 4, qui sont des centrales. Il y a des endroits également en Outaouais, des centrales Bryson, Chelsea,
Rapid Farmer. Morgan,
Rapid Farmer, exactement. Donc, 6 projets au fil des années où, grâce à l'argent, grâce aux petites enveloppes,
remis lors de dîner au restaurant, ce qui me fait... Wow. C'est surréaliste.
Il avoir ce qu'il voulait. Puis, pour un entrepreneur, c'est quoi l'avantage de donner pour un entrepreneur une fois que ton produit est accepté? Ce qu'on comprend à travers ça, c'est que c'est un peu pour avoir un meilleur service après-vente. Tu sais, quand tu fais affaire avec Hydro-Québec, puis là, une fois de temps en temps, en cours de ton contrat, par exemple, tu réclames un extra. Hein, les coûts de travaux ont coûté plus cher que prévu. Ben, c'est toujours intéressant d'avoir une oreille attentive chez Hydro. Quelqu'un qui va te faciliter le règlement de ton conflit ou qui va, justement, on va arriver plus serré d'un délai, tu as une oreille attentive. Alors, l'argent servait un peu, je pense, à entretenir la bonne relation qu'il pouvait avoir entre l'entrepreneur et l'architecte d'Hydro-Québec. Mm-hmm. Puis lui, l'entrepreneur, calculait que ça faisait son affaire. Tu sais, je donne une petite enveloppe, ça me coûte 500, ça me coûte 1 000, ça me coûte 2 000. Mais en retour, si je suis capable de faire 50 ou 100 000 piastres de plus que prévu sur le contrat, on comprend que c'est totalement inacceptable. Ça doit être interdit. C'est pas pour rien que la police enquête sur ce genre de crime-là. Mm-hmm. Mais au bout du compte, je pense que les deux hommes y trouvaient leur compte, mais c'était illégal.
Et là, vous l'avez filmé, c'est vraiment ça là, qui est incroyable dans toute cette histoire. Vous l'avez filmé à son insu. Vous l'avez questionné par la suite, et alors que lui ne savait toujours pas que sa rencontre au restaurant avait été filmée. Et il vous a menti. Donc, il a reconnu s'être rendu au restaurant, mais il a nié avoir reçu de l'argent.
Oui, effectivement. Évidemment, là, on laisse les images parler par elles-mêmes.
Mm-hmm.
Là, il faut comprendre que Guy Huot, ce matin, très tôt, là, je pense qu'il était à peine 7 heures qu'Hydro-Québec a annoncé
évidemment
qu'il était suspendu sans solde, il faut le dire.
Fort heureusement,
oui. Ce qu'on sait également, c'est que Hydro-Québec a appelé l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Donc, il y a une enquête criminelle qui est déjà ouverte à ce niveau-là. Il y a des mesures qui ont été prises là, pour pas que M. Huot, par exemple, puisse détruire de la preuve. Il faut dire, par contre, qu'au niveau de la justice, M. Huot est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire.
Évidemment,
il n'y a pas d'accusation criminelle qui a été déposée, même s'il y a une enquête en bonne et due forme ouverte ce matin. Mais on va laisser les gens quand même apprécier les images qu'on a filmées. Là. On le voit clairement prendre l'enveloppe, la mettre dans son manteau. On sent que les deux hommes se connaissent, etc. Est-ce que c'est un crime? C'est pas moi qui peux te le dire, Vanessa. Ça va être un juge de trancher ça éventuellement. On va laisser la police faire son travail. Mais chose certaine, il y aura des conséquences.
C'est
là.
Sûr.
Déjà ce matin, on le voit. Oui.
On rappelle que les auditeurs peuvent aller regarder votre dossier, votre article sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. On voit les images, la vidéo est incorporée à l'article. C'est, comme je vous le disais, je me répète, je le sais, mais c'est vraiment surréaliste. Là, avec tout ce qu'on sait au niveau de la corruption là, au Québec, de le voir se dérouler sous nos yeux, c'est quelque chose d'autre vraiment comme expérience. Dans votre article, vous citez aussi le cas d'un autre employé de l'État, là, d'un autre employé d'Hydro-Québec, Denis Hervieux, qui avait été lui aussi accusé de fraude et d'abus de confiance. Donc, on comprend que c'est pas un cas isolé, là, toute cette affaire avec M. Huot. Là, comme je le disais tout à l'heure, on n'a qu'à imaginer, même si les sommes nous paraissent pas très grandes, même si les dossiers ont pas l'air importants, on n'a qu'imaginer que c'est quelque chose de répandu, là, que n'importe quel employé de l'État peut comme ça accepter des pots de vin en échange de petits services qui, à un moment donné, ont un impact sur notre portefeuille.
Ouais. Puis tu sais, Vanessa, Hydro-Québec ont longtemps été considérés un peu comme intouchables. C'est-à-dire que la commission Charbonneau, c'est pas vraiment intéressé à Hydro-Québec. Mm-hmm. C'est surtout intéressé au niveau municipal. Il y a eu un peu d'allégations qui touchaient le Parti libéral du Québec, le gouvernement provincial, mais Hydro-Québec était sorti de la commission relativement épargné. Mais ce qu'on se rend compte, avec effectivement Denis Hervieux accusé en 2019,
qui est un
cadre. Avec le cas de Guy Huot qu'on dévoile ce matin, c'est qu'Hydro-Québec n'est absolument pas immunisé contre la corruption et avec 20 000 employés, c'est sûr que ce genre de geste-là peut s'être produit au fil des années. C'est totalement inacceptable. Et moi, je pense qu'Hydro-Québec, à partir d'aujourd'hui, ne peuvent plus nier. Puis j'entendais M. Martel, le patron d'Hydro, il y a quelques minutes, dire Oui, effectivement, là, il y a quelque chose qu'on a échappé quelque part. Là. Les gens s'attendent à ce qu'Hydro-Québec soit plus blanc que blanc. À quelque part, il y a un processus qui a été défaillant. C'est bien beau de dire on ne peut pas empêcher deux hommes d'avoir une entente dans un restaurant, mais le processus d'attribution de contrat d'Hydro-Québec doit être immunisé contre un gars qui reçoit une enveloppe de 500 $ comme ça. C'est pas acceptable dans une société comme le Québec. Donc, je pense qu'Hydro-Québec a de sérieuses questions à se poser. Peut-être qu'ils n'ont pas eu à laver la linge sale en public comme certaines villes ont fait à la commission Charbonneau. Ouais. Mais là, il va falloir qu'à l'interne, il y a de sérieuses questions qui se posent.
Ben, à l'interne, moi, je dirais quand même à l'externe aussi, parce qu'à partir du moment où on a un processus défaillant, il s'agit aussi de rétablir la confiance du public envers l'institution.
Et moi, Vanessa, je te le dis, là, je m'attends à ce qu'Hydro-Québec soit très transparent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils expliquent aux Québécois ce qu'ils ont trouvé, qu'ils expliquent aux Québécois comment ça a pu se dérouler pendant plusieurs années. Donc, bref, qu'ils rendent des comptes.
Ben oui.
Parce que, ultimement, c'est toi, moi, c'est nos auditeurs, c'est tout le monde qui paye, hein, qui finance Hydro-Québec. Donc, ça peut pas se... Donc, l'enquête ne peut pas se dérouler derrière la porte close. Il faudra que la société d'État rendre des comptes.
Donc, c'est un dossier qu'on va évidemment continuer à suivre et on espère là qu'il va avoir des annonces, plus de réponses que des questions au bout du compte. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette enquête extraordinaire que, je rappelle, vous pouvez aller consulter sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Merci. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa Destinée, Cube Radio.
Donner des outils aux jeunes pour mieux affronter les changements numériques, c'est la mission que s'est donnée Printemps numérique, un organisme à but non lucratif dont la mission première est de démocratiser et d'accompagner la transformation numérique à travers une foule d'activités qui mêlent le domaine des arts, l'industrie des nouvelles technologies et le milieu de l'éducation. On va jaser de la plus récente initiative qui concerne les jeunes avec Cassie Réaume, qui est ambassadrice de la Charte de la citoyenneté à l'ère numérique et directrice aussi du Lighthouse Labs. Salut Cassie.
Bonjour Vanessa.
Ça va bien?
Bien, merci vous-même.
Oui, très bien, merci. Donc, Printemps numérique qui s'intéresse aux jeunes cette fois-ci dans le cadre, c'est ça, d'une charte numérique. Là, je pense que pour bien des gens qui nous écoutent à la maison, c'est un petit peu abstrait, là, tout ce que je viens de nommer.
Avec Printemps numérique, un super projet soutenu par le secrétariat à la jeunesse du Québec vise à parcourir le Québec vraiment pour outiller les jeunes, faire la promotion de la technologie, parce qu'on a vraiment besoin de leur intérêt puis de leur faire sentir qu'on a besoin d'eux dans la génération du futur.
Mm-hmm. Puis dites-moi, parlez-moi de cette charte que vous avez mise au point justement pour aider ces jeunes-là à saisir les outils numériques dans leur milieu, dans leur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là?
Donc, sous ce titre bien sérieux, en fait, on veut créer un mouvement. On veut sensibiliser les jeunes à leur comportement en ligne. On veut leur faire réaliser à quel point ce qui peut sembler vraiment simple et ludique et amusant, comme les médias sociaux, comme tout ce que les plateformes et les outils leur permettent de créer, de s'approprier les technologies, le web, vraiment. On veut les sensibiliser à faire un usage intelligent, pertinent et adéquat.
OK. Et on retrouve quoi dans cette charte-là, par exemple? Quels sont les exemples de choses ludiques ou sur lesquelles on devrait travailler là, pour bien saisir l'impact là, des nouvelles technologies autour de nous, là, de l'environnement numérique plutôt autour de nous?
L'essentiel de la charte, vraiment, là, vise à faire la promotion de la liberté d'expression, mais aussi d'une façon respectueuse. Donc, d'avoir un comportement responsable en ligne. Donc, rapidement, là, on peut penser à des choses qui sont vraiment évidentes. Donc, ne pas se rendre coupable de cyberintimidation, de s'exprimer librement, mais dans le respect toujours des autres, de réfléchir simplement avant de publier, de ne pas dévoiler des photos de quelqu'un sans son consentement. Mm-hmm. On invite nos jeunes à réfléchir et d'être des générateurs de bons souvenirs, de penser à toutes les belles choses qui vont en ligne, qui leur font plaisir, les messages de fête, les messages d'amitié, amitié, les messages d'encouragement, les photos de beaux voyages, d'être vraiment là, des générateurs de contenu intelligent, pertinent et informé aussi. Donc, de faire attention à tout ce qui est fausse nouvelle, de faire attention à tout ce qui est pensée critique, donc d'évaluer aussi avant de publier ou avant de partager, comment on peut se rendre vraiment un vecteur d'informations pertinentes et adéquates.
Et là, cette charte-là, elle est bien adaptée, évidemment, bon, aux sites les sites les plus courants auxquels on pense, là, par exemple, les porteurs de recherche, whatever, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez une intervention ciblée là-dessus? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, comme parents, généralement, bon, on va s'attarder à Facebook, tranquillement, on comprend un peu c'est quoi Instagram, il y a Twitter, mais les jeunes sont rendus ailleurs, sont sur TikTok. Allô, OK, boomer, vraiment, là. Non, sont sur TikTok, sont sur Snapchat et sur d'autres réseaux qui verront certainement le jour au moment même où on se parle. Hein, qui sait, ça va tellement vite maintenant, là, on a l'impression qu'on est rapidement dépassé, en fait, par l'offre. Donc, comment vous avez réussi à trouver ce sur quoi il fallait se concentrer pour parler aux jeunes?
Donc, les principes sont les mêmes d'une plateforme à une autre. Donc, l'avantage est quand même là. Il est toujours question là, de faire attention à la façon dont on se comporte en ligne. C'est vraiment l'essentiel de la charte. La charte qu'on peut trouver sur le site de Printemps Numérique, donc printempsnumérique.ca, qui s'adresse vraiment à tous. Donc, nous, on a porté attention aux jeunes parce que c'est la génération qu'on veut sensibiliser. Mais tous les éducateurs, tous les profs, tous les adultes curieux et intéressés peuvent aller chercher la charte, la lire, la consulter. Et puis, c'est une belle façon de débuter une conversation avec nos jeunes aussi.
Mm-hmm, ben c'est ça, j'allais justement parler là, du public cible. Hein, parce que souvent, jeunes, ça devient un fourre-tout pour dire là, les gens qui ont de 12 ans à 35 ans. Là. Donc, vous dites vraiment que vous adressez à tout le monde, mais en même temps, on ne peut pas s'adresser de la même façon à un jeune de 11 ans qui navigue sur les réseaux sociaux qu'à une personne qui en a 30. Là.
Ben, c'est encore drôle quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de comportement responsable en ligne, tout le monde se retrouve un peu coupable là, d'un moment ou un autre. On se laisse emporter par l'émotivité du moment. Souvent, on laisse parler notre petite voix interne, mais on se dit « Ah, ça va être amusant » ou « Mes amis vont trouver ça drôle. Mes amis pensent comme moi. » Et on perd parfois un peu de vue qu'on n'est pas 100% en contrôle là, de ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes.
Et donc, ça va nous suivre aussi. Là.
Exactement.
Ça ne s'en va jamais réellement.
Exactement. Donc, de réfléchir à deux fois, de se structurer aussi, de vérifier encore une fois là, qu'on est respectueux, qu'on n'a pas fait de faux dans l'idéal. Des petites choses qui nous permettent d'être fiers et contents et soulagés là, que nos publications suivent la charte de la citoyenneté, suivent un comportement socialement acceptable en ligne pour le mieux de tous et de toutes.
Vous avez fait, je crois, aussi un guide ou est-ce que c'est la même chose, la charte et le guide qui est destiné aux enseignants, là, cette fois-ci, pour intervenir auprès d'eux? C'est-tu deux affaires différentes ou c'est...
Je crois que c'est la même chose.
OK. Vous n'avez pas participé à l'élaboration de...
Malheureusement. Moi, j'ai contribué au matériel de promotion. Donc,
c'est déjà beaucoup.
Une petite vidéo là, qui explique un peu aux jeunes comment se comporter en ligne, pourquoi c'est important.
Et j'ai cru comprendre qu'à travers toute cette mission-là, parce que c'est quand même large, la mission de Printemps numérique, puis le volet jeunesse est très assumé dans toutes sortes d'activités aussi là, de sensibilisation. Il y a quelque chose, il y a un volet aussi pour parler des métiers de demain, des métiers d'avenir en lien avec les nouvelles technologies. Est-ce que ça fait partie des dossiers sur lesquels vous avez travaillé?
Tout à fait. On estime que d'ici 2030, 85 % des rôles et des métiers disponibles et à combler, en fait, seront des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'outiller les jeunes qui sont nés avec le numérique, de bien s'en servir. Et puis, pour les jeunes, de comprendre que c'est important qu'ils doivent prendre leur place dans la transformation du numérique au Québec. L'économie du savoir, c'est l'économie d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. La technologie, c'est au cœur de nos vies, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. C'est important de se l'approprier, de réaliser à quel point la technologie, c'est un vecteur de créativité. Bien souvent, on nous la présente comme étant froide, comme étant abstraite, alors qu'au contraire, c'est super concret, c'est dans nos mains tous les jours.
Mais je pense qu'on
a
peur aussi, surtout quand il est question justement de la relation du numérique, des jeunes avec le numérique, on a peur, tu sais, on a peur de la dépendance, on a peur de l'intimidation. On pense beaucoup aux aspects négatifs de la présence de l'Internet et des réseaux sociaux dans notre vie, peut-être en négligeant un peu trop, malheureusement ce qu'elle peut nous amener, donc d'apprendre à cohabiter avec elle et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Avant qu'on se quitte, je voulais savoir, vous êtes directrice du Lighthouse Labs. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai déjà de la misère à le dire. Donc, je pense que je vais avoir de la misère à comprendre ce que c'est aussi.
Ah, du tout, c'est super simple. Donc, Lighthouse Labs, donc moi, je suis directrice du campus à Montréal. Nous sommes un réseau d'écoles canadiens qui vise justement à éduquer et à enseigner aux, la prochaine génération de gens en technologie. Donc, c'est une formation intensive et immersive pour les gens qui veulent s'injecter dans l'industrie des technologies.
C'est ouvert à tout le monde?
Ouvert à tout le monde.
Mais c'est quoi? C'est en ligne ou c'est en personne?
C'est en personne. Ah, c'est okay. En personne.
Comme à Montréal, mettons, ou à Québec, où est-ce
oui.
qu'on...
Oui, à Montréal, nous sommes situés dans le Myland, donc au cœur du quartier des startups à Montréal. Et puis, donc, on ferme principalement des développeuses et des développeurs.
OK.
Des gens qui veulent devenir des développeurs principalement web. On se lance aussi dans la data, l'analyse de données. Et on a aussi des cours du soir pour les gens qui veulent simplement s'initier, ajouter une corde à leur arc, peu importe dans quel domaine ils travaillent.
Est-ce que vous déplacez avec ça ou pour l'instant, c'est surtout ciblé à Montréal?
Nous sommes situés dans 6 villes canadiennes.
Ah, okay, d'accord, oui.
Donc, on est à Vancouver, à Toronto, Ottawa, Montréal, à Calgary
hubs,
et Victoria.
Fond, ce qu'on appelle les hubs de technologie, d'accord. Oui. OK, bien merci Cassie Réaume quand même. Donc, juste rappeler avant qu'on se quitte, là, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? La charte se retrouve sur le site de Printemps numérique, on le réitère. Là,
oui.
Parce que comme parent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à tout ça avec votre jeune.
Oui, allez-y.
Vous disiez tout à l'heure, bonne occasion de partir une conversation. Donc, Cassie Réaume, ambassadrice de la Charte de la citoyenneté à l'ère numérique et directrice du Lighthouse Labs. Merci d'avoir discuté avec nous.
Merci, Vanessa.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
À la Société de transport de Montréal, on aime bien se vanter de prendre la question de l'accessibilité au sérieux. Il y a d'importantes sommes là, qui, d'ailleurs, ont été investies là, en ce sens au cours des dernières années. Et surtout, les travaux interminables aux abords de certaines stations, hashtag Mont-Royal, nous donnent l'impression que les choses se passent. Hein? Mais actuellement, il y a 15 stations de métro qui sont accessibles. Ça, c'est ce que dit la STM. Sauf que les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant soutiennent, elles, qu'il est impossible d'utiliser 4 de ces 15 stations. Il y aurait des problèmes d'accès à Snowdon, Jean Talon, Lionel Groulx et Honoré Beaugrand. Et c'est un problème contre lequel se bat le regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec. On reçoit la présidente Linda Gauthier. Bonjour, Mme Gauthier.
Bonjour, Mme Destinée.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les 4 stations que j'ai nommées ne sont pas réellement accessibles pour les gens utilisant des fauteuils roulants? Parce qu'il y a des ascenseurs dans ces stations.
Effectivement. C'est que la majorité sur ces lignes-là, ça va être les anciens trains, les MR73, mm-hmm. qu'on appelait. Il y a quelques trains Azur, mais je veux dire, en majorité, c'est des MR73. Alors, ce qui fait en sorte que les trains ne s'ajustent pas nécessairement au quai selon le poids, selon l'heure à laquelle passent évidemment les trains. Fait que ça fait en sorte que il peut y avoir une dénivellation assez importante entre le quai et le train. Ce qui fait en sorte qu'une personne en fauteuil roulant ne pourra pas monter. Des fois, s'il y a un 3 pouces là, de dénivellation, c'est impossible de le faire. Et ces 4 stations-là, c'est qu'il n'y a pas de rehaussement de quai parce que la STM a fait un travail de rehaussement de quai en tête du train. Mm-hmm. Et bon, en fait, c'est mal fait. Là. On pourrait dire aussi que c'est pas très, très bien fait. Ça aurait pu être mieux fait que ça. Les personnes devraient s'asseoir, les personnes en fauteuil devraient s'asseoir dans la première voiture derrière le conducteur.
Oui, et il y a de l'espace.
Et se servir de ce rehaussement, effectivement. Sauf que à ces 4 stations-là, ça n'a pas été fait.
Ben, c'est quand même impensable parce que Snowdon, Jean Talon, Lionel Groulx, c'est des stations qui permettent de rejoindre d'autres lignes. Là. Donc, c'est des stations super importantes parce qu'elles servent un peu là, de... Je sais pas c'est quoi le terme qu'on utilise, là, mais c'est des stations principales qui nous permettent de rejoindre plusieurs lignes en même temps. Donc, de savoir... Par exemple, je prends l'exemple de Snowdon, c'est la ligne verte, c'est la ligne orange, c'est la ligne bleue. Donc, à partir du moment que vous êtes pogné à Snowdon, vous pouvez pas faire grand-chose. Là.
C'est ça. Non, ben eux autres, ils vont dire, eux autres étant la STM, il y a toujours un changeur qui peut être appelé pour venir nous installer une espèce de petit, on appelle ça en anglais un threshold ramp, là.
OK, pour comme on voit dans les autobus. Le,
c'est ça, ouais. Exactement. Pour embarquer au train, mais ça, je pense qu'il y a un changeur par quart de travail. Ça fait en sorte que, oui, c'est ce qu'il disait dans l'article. Moi, ça m'est arrivé. Martin Dion, ça y est arrivé aussi. Attendre jusqu'à 1h30 pour qu'on vienne nous installer la fameuse petite rampe, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais. On a une vie, nous autres aussi. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on n'en a pas une.
Et, enfin, et déjà qu'on sait que le transport adapté n'est jamais adapté à votre horaire, c'est vous qui devez vous adapter au réseau du transport adapté. Il n'y a rien qui est fait pour vous faciliter là, la vie en société au quotidien,
absolument
on comprend ça?
Absolument pas, voilà. Mmh. Voilà.
Et qu'est-ce qui explique, selon vous, là, qu'un tel... Oubli qu'on n'avait pas pensé dans les travaux visant à mettre des ascenseurs dans ces stations-là, de trouver des meilleures façons de rendre l'accès sur les abords là, des stations, donc dans, vraiment dans le métro, sur les abords du train. Comment ça se fait que ça a été négligé, un détail qui, pour nous, je dois le dire, paraît vraiment... J'y aurais pas pensé, honnêtement, là, à leur place, là, mais eux, c'est leur travail. T'sais, moi, c'est pas à moi de penser à ces choses-là.
Oui, voilà. Ben, écoutez, moi, je dois vous dire qu'il y a des organismes qui se trouvent à faire des simulations, évidemment, avant que les stations soient mises en accessibilité. Mais nous, on n'est jamais invités. Évidemment, on est peut-être l'organisme qui est le plus grand détracteur de la STM. On a un recours collectif de lever contre eux. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on ne nous invite pas.
Il porte sur quoi le recours, juste pour nous rafraîchir la mémoire un petit peu?
Ben, l'inaccessibilité des trois volets, autant transport adapté que les métros, que les autobus réguliers qui présentent des rampes très défectueuses. Alors, c'est pour cette raison-là. Et les autres organismes, notamment, entre autres, un organisme qui est le RUTA de Montréal, le regroupement des usagers du transport adapté et accessible, reçoit un certain financement aussi là pour faire des essais dans le métro, notamment, avec la STM. Fait que, tu sais, je me demande à quel point, si on reçoit une subvention pour faire des essais, en tout cas, écoutez, je veux pas les dénigrer, ils font un très, très bon boulot, mais si ça n'a pas été remarqué, ben...
Il y a une petite sensibilité qui fait défaut quand même, là. Donc, voilà. Sans nécessairement tracher l'ensemble du travail, il y a quelque chose, il y a des points à améliorer. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas nécessairement invité à la table des discussions, donc on comprend de ça que la discussion sur l'accessibilité en amont, vous n'êtes pas invité là, à la table de discussion. Par contre, vous avez participé à une rencontre là, de la Société de transport de Montréal là, avec le conseil d'administration, si je comprends bien, au début du mois de février. Vous avez soulevé cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Bien, je pense qu'on est resté un peu surpris du côté de la présidence, en tout cas, qu'il y aurait des vérifications qui seraient faites et tout ça, mais c'est pas normal qu'on réponde ça, parce que moi, je me dis, en quelque part, je regardais Martin Dion là, sur la web diffusion pendant qu'il posait sa question. Par ailleurs, il connaît son dossier extrêmement bien, puis c'est quelque chose qui devrait être su d'ores et déjà de la part des membres du conseil d'administration. Sans compter qu'il y a aussi une représentante là, des usagers à mobilité réduite, tu sais, sur le CA. Moi, je me dis exactement comme je disais dans l'article de journal, qu'est-ce que ça donne de payer 20 millions de dollars pour mettre en accessibilité une station si on peut même pas embarquer dans les trains.
Ben oui, c'est ça. C'est notre argent qui est dépensé, comme
c'est
ça.
Pour rien. On a dit que les trains Azur étaient pour permettre cette facilité-là, mais ça, c'est... Ils vont arriver en 2021, là, tu sais, c'est long pour attendre un train, je trouve. Fait que il y a beaucoup de choses à revoir, puis ça vient me dire que je suis contente qu'on ait déposé ce recours collectif-là à la Cour supérieure en 2015. C'est qu'il y avait sûrement des raisons pour qu'on le fasse, et puis les gens peut-être vont comprendre mieux justement par votre courroie de transmission aujourd'hui que c'est fondé, là, ce qu'on a fait.
Absolument. J'en profite pour faire quelques précisions pendant que vous parliez. Donc, vous avez cité Martin Dion, vous avez cité l'article, donc il s'agit d'un article de The Gazette, et là-dedans, en fait, on donne la parole à un membre de votre regroupement, là, donc le RAPLIC, Regroupement activiste pour l'inclusion du Québec, qui a parlé à ces gens-là là, de la STM. CPM. Du côté de l'administration Plante, là, est-ce que vous trouvez qu'il y a une ouverture, qu'il y a une écoute? Parce qu'on le sait, c'est quand même... On sait que la mairesse et son administration sont sensibles aux demandes des différents groupes minoritaires là, à travers la métropole. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette sensibilité-là de leur côté?
Le rire! C'est ça. Vous savez, dire le contraire, là, qu'on n'est pas sensible, il y aurait l'air fou. Fait que c'est clair qu'on considère qu'on est toujours assez oublié. C'est sûr que les personnes à mobilité réduite, puis la mise en accessibilité, ça coûte extrêmement cher. Peut-être comparé à d'autres groupes, comme les personnes itinérantes, ouais. Je sais pas. Bon. Fait que
C'est sûr que c'est des défis logistiques supplémentaires, étant donné que nos stations sont très vieilles, on le répète ad nauseam, c'est difficile de construire sur des plans qui ont été faits dans les années 60. Là,
Toronto l'a fait. Ah. Puis ils sont rendus quand même, puis le métro date de 1955. Okay. Stockholm, tout est fait depuis 1950.
Bon, ben vous venez de m'enlever les mots de la bouche, de me boucher complètement. Donc c'est la réponse que vous formulez en fait, c'est qu'on ne le sait pas ce qui se fait ailleurs et peut-être qu'on n'en prend pas assez exemple non plus. Vous trouvez qu'on est en retard ici à Montréal?
Ça fait 10 ans qu'on leur dit. Fait que je pense qu'ils sont au courant, tant quand ils étaient à l'opposition que maintenant.
Donc, c'est quoi qui explique le fait qu'il n'y a pas de changement, un manque de volonté politique parce que les personnes handicapées ne suscitent pas assez l'intérêt ou la compassion dans le reste de la société? Qu'est-ce qui explique qu'on vous tasse
là,
tout le temps?
Là, c'est vous qui m'enlevez les mots de la bouche, Madame Destinée, oui.
Vous croyez encore aujourd'hui que la population au niveau de la reconnaissance, de la sensibilisation à la réalité des personnes handicapées, vous pensez qu'on a encore du chemin à faire?
Beaucoup. C'est malheureux, mais beaucoup, effectivement. Quand c'est le temps de payer nos taxes, ou nos impôts, par exemple, là, on est des citoyens de première zone. Sinon, autrement, on attend et on attend, on se fait toujours dire les lois ne sont pas mises en application, des lois qui ont été adoptées sous René Lévesque, si on parle au niveau provincial, et puis le pouvoir a été remis aux municipalités aussi, la loi assurant l'exercice de nos droits notamment, et puis on fait rien. On fait rien pour ça, on contourne toujours, puis... Ça devient, à un moment donné, fatigant.
Bien, on l'entend dans votre voix, Madame Gauthier. On entend la fatigue, la lassitude dans votre voix en ce moment même.
Oui, mais que voulez-vous? Si on baisse les bras, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont le faire. Je prétends pas qu'on est les meilleurs, on est les seuls. Tant que c'est souvent ça qui arrive, en tout cas, à tout le moins, là, qui sont pan-québécois, qui sont aussi radicaux que ça, puis qui osent confronter les différents paliers de gouvernement. Mais ça devient, à un moment donné, la confrontation, ça use. Comme vous dites, vous l'entendez. Moi, je dois former des gens comme Martin Dion, qui sont la relève, parce que j'ai 63 ans là, bientôt. Okay. Fait que je pourrais pas faire ça toute ma vie.
Et là, on comprend, bon, à défaut, le reste de la population développe pas cette sensibilité-là, peut-être que l'argument monétaire sera les convaincre de s'intéresser à la question, parce que, je le rappelle, c'est des sommes importantes qui sont investies pour la refonte, la restructuration de nos stations de métro, qui sont investies, mais qui ne servent à rien, parce que, ultimement, les utilisateurs qui se déplacent en fauteuil roulant n'ont pas accès à certaines stations de métro. Donc, c'est vraiment de l'argent envoyé, jeté par les fenêtres. Là. Donc, au moins, peut-être que l'argument monétaire sera faire bousculer les choses, faire réagir les gens. Madame Linda Gauthier, je le rappelle, vous êtes présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance
merci
aussi.
Merci de m'avoir invitée.
Voilà, merci. Bonne chance dans vos démarches.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Les effrontés.
2 heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
On reçoit maintenant Frédéric Mockel, recherchiste à Cube Radio, auteur du blog Accro au balado et de toute évidence chroniqueur à 16 heures. Il va nous suggérer là, quelques balados de type True Crime qui se concentrent sur le trim organisé.
Bon, je pense que je vais prendre le relais parce que Vanessa a besoin d'une pause. Donc oui, Vanessa, en fait, je vais venir vous parler des balados True Crime. Bon, on s'entend, je pense que n'importe qui a déjà écouté des balados ou des podcasts, en fait, a écouté un balado de ce genre-là, parce que c'est un des plus plus populaire, même à la télévision, au cinéma, ce genre de sujets qui nous intéressent beaucoup. On s'entend, par exemple, la majorité des balados True Crime portent souvent sur une espèce d'enquête irrésolue ou des cas, en fait, un peu solides, un peu particuliers, ce qui peut être excellent, en fait, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec le respect aussi, surtout des victimes, de tout le monde qui est inclus là-dedans, comme par exemple avec la série Synthèse, en fait, qu'on a sur nos ondes à Cube Radio. Mais on a d'autres, en fait, qui se spécialisent de façon... De temps en temps sur des sujets un peu plus gros. J'ai nommé le crime organisé, justement. Je vous dirais, il y en a probablement moins parce que, selon moi, ça demande peut-être un peu plus de travail. Parce que quand on parle de crime organisé, on parle pas juste d'un cas. On parle d'une organisation, on parle d'un système, on parle de nombreux acteurs qui agissent d'une façon ou d'une autre. C'est souvent quelque chose qui on connaît un petit peu, qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus sur ce sujet-là pendant des années, mais reste que c'est très secret comme pan, disons, de la criminalité. Sauf que certains balados qui réussissent vraiment bien à traiter ces questions-là. Puis justement, là, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous proposer. 5 suggestions qui, selon moi, là, vraiment méritent une écoute, là, autant en français qu'en anglais.
D'accord, cool, ça, c'est super aussi.
Vous comprendrez que, par exemple, j'ai un petit peu plus de suggestions en anglais parce que, malheureusement, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup, par exemple, en France. Il y en a quelques-uns ici au Québec. Au Québec, j'en ai 2, en fait. Je pourrais commencer avec
vrai?
Ça.
C'est oui. Vrai?
Okay. Tout d'abord, si on reste à la maison, donc à Cube Radio, il y a Narcos PQ qui est le balado, en fait, qui est produit par, en fait, qui est réalisé par Brigitte Noël et Félix Séguin, deux excellents journalistes du bureau d'enquête.
Absolument.
Qui portent sur le monde des narcotrafiquants, sur plusieurs aspects, mais plus précisément sur des Québécois, en fait, des agents québécois, des criminels qui ont agi dans le monde des narcotrafiquants. Donc, c'est vraiment touchant au trafic de stupéfiants, mais il y a plusieurs aspects qui sont traités dans cette série-là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est le fun aussi de voir le travail de journalistes d'ici, d'entendre parler aussi de en fait, d'acteurs qui à l'origine sont, tu sais, on se dit tout le temps, ça se passe, par exemple, je sais pas, en Amérique latine, en Amérique du Sud, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens justement qui travaillent là-dessus. Quand on parle de films, on parle de mafia, on parle d'Italie, des États-Unis à New York. Mais au final, en écoutant quelque chose comme Narcos PQ, tu te rends compte, il y a vraiment le Québec laisse pas sa place non plus dans le crime organisé.
Pardon à M. Saputo.
Fais attention à ce que tu dis, Vanessa. On va passer à un autre sujet. Donc, Narcos PQ, en fait, à Cube Radio. Je vous le conseille fortement. Sinon, mon autre suggestion québécoise, en fait, on va aller voir chez nos compétiteurs, en fait, Radio-Canada et Vice, en fait, qui ont produit ensemble le balado qui s'appelle Rap Carcéral, qui est un peu différent des autres.
Je m'attendais pas à ce qu'on aille là.
Oui, en fait, moi, je trouve que c'est un peu différent que mes autres suggestions, parce que c'est pas nécessairement un balado qui regarde le crime organisé de façon très précise, qui se dit, OK, on fait une incursion dans un groupe en particulier, mais plutôt, comme le nom l'indique. En fait, ça examine le lien entre certains groupes, en fait, le crime organisé, les gangs, surtout, en fait, la culture du gang de rue, en lien avec la culture du rap, la culture du hip-hop. Puis le journaliste Simon Couteau, dans tout ça, fait vraiment une belle job pour allier les deux, en fait. Donc, même quelqu'un qui aime pas le rap va trouver, selon moi, quelque chose qu'il va aimer, vraiment quelque chose d'intéressant dans ce balado-là. En même temps, c'est pas juste non plus sur les gangs de rue. Ouais. Ça fait pas l'apologie de, par exemple, la violence ou justement la culture du bling-bling ou de tout ça qui peut exister dans, justement, un lien. Ça l'aborde d'ailleurs un peu cette question-là de dire, OK, c'est bien beau, t'en parles dans tes chansons, sauf qu'après ça, t'sais, après avoir fait de la prison, peut-être que tu vas réaliser que c'est peut-être pas la même game que quand tu le fais dans Toon ou pas. Donc, c'est puis réussir à aller trouver des intervenants qui sont comme carrément, comme par exemple, j'en ai un qui il est carrément recherché par la police, puis il réussit quand même à lui parler, puis à pas lui parler de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau travail de journalisme.
Exceptionnel, ancien collègue de Brigitte Noël, donc ceci explique peut-être ça.
C'est ça. Donc, Rap Carcéral, je vous le conseille fortement. Sinon, si on tombe sur les balados en anglais, cette fois-ci, j'ai mon préféré, celui que je porte dans mon cœur, un de mes balados préférés qui n'a jamais été produit. Ça s'appelle Crime Town. C'est un balado des États-Unis, en fait, qui est produit par l'entreprise Gimlet Media, qui est une grosse entreprise de balados, en fait, aux États-Unis. En gros, Crime Town, qu'est-ce qu'ils font? C'est à chaque saison, il y en a 2 pour l'instant, puis on comprendra pourquoi, en fait, plus tard. C'est chaque saison, ils vont aller voir une ville en particulier, puis ils vont essayer de comprendre là, comment le crime organisé s'est installé de différentes façons, toutes les tentacules où jusqu'à où que ça peut toucher en fait quand c'est vraiment là, intégré dans une ville. Pour la première saison, ça parle de la ville de Providence, qui est quand même une ville qui est considérée peut-être un peu plus riche, un peu plus bobo là. Pardon?
Au Maryland, c'est où déjà?
Faudrait que je vérifie. On va faire la.
On continue.
Donc en fait Providence, puis c'est vraiment fascinant de voir comment les différents acteurs, les différents personnages de toute cette série-là, à quel point ils sont allés chercher des témoignages qu'eux ont récoltés ou que des criminels qui avaient fait des témoignages avant eux. C'est vraiment fascinant de voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où le crime organisé peut gangréner une ville, puis comment que ça touche à peu près tous les pans de la société. Leur deuxième saison étant donc la dernière est à propos de la ville de Détroit, qui est complètement autre chose. On parle d'un autre univers du tout au tout. Mais il y a juste une chose peut-être à dire sur Crimetown qui va peut-être être difficile pour certaines personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Donc, parfois, c'est difficile de suivre. J'ai trouvé que la deuxième saison était un petit peu moins bonne de ce côté-là. C'est plus difficile de suivre de qui il parle à tout moment, surtout qu'à chaque épisode, il peut changer pour nous présenter une nouvelle situation. Au final, ça finit toujours par s'entrelacer, puis pour nous montrer, en fait, comment tout le monde se connaît un petit peu.
On dirait un avertissement fait pour moi qui a de la misère à se rappeler des noms d'à peu près tout le monde dans la série.
C'est juste, prenez votre temps. C'est pas nécessairement pour tout le monde, mais si vous êtes prêt par exemple, si vous êtes fan de je sais pas, comme une série comme par exemple The Wire, qui a un peu le même défaut que plein de personnages. Mais si vous êtes capable de suivre ce genre de série-là, de cette technique narrative-là, de vous présenter beaucoup de personnages pour vous faire comprendre le tout, vous allez vraiment adorer Crimetown. Moi, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ça.
C'est une série de bros. Parce que vraiment, jusqu'à présent, tu sais, moi, là, j'ai un petit préjugé. Là. Les trucs là, de true crime, mm-hmm. là, c'est des affaires. Ça a l'air tellement masculin comme univers, honnêtement. Je me demande, est-ce que c'est accessible? Buté, là, parce que moi, là, les gars qui trippent sur le parrain et des affaires de même, là, peux-tu dire que...
Hein? Moi, je te dirais que le true crime est aussi... En fait, selon les statistiques, le true crime est le si je me trompe pas, le style de podcast, en fait, qui intéresse le plus les femmes.
Oh, yes,
donc,
queens.
Après ça, je pense pas que c'est juste pour une affaire de bros. Après ça, quand on parle de crime organisé, malheureusement, c'est souvent, en fait, ben, malheureusement, je sais pas si on devrait dire malheureusement, mais ça reste un milieu qui est très masculin, évidemment, qui est très souvent machiste et compagnie. On peut le savoir, c'est un milieu de vie qui est très violent, en fait. Donc, après ça, c'est sûr que les personnages sont principalement masculins.
Après ça, les
personnes qui traitent de ces sujets-là ne le sont pas nécessairement. Dans d'autres, je pourrais te faire une autre suggestion, si tu veux, true crime au féminin, mais ça ne sera pas une autre chronique. Donc, en fait, je vais continuer. Pour ne pas prendre trop de temps, il y a une autre série québécoise, en fait, mais en anglais, qui a été produite par Postmedia, en fait, qui s'appelle The Dark North, qui... en fait, mais en vedette, le journaliste, un journaliste vraiment vétéran de Gazette, si je me trompe pas, qui s'appelle Paul Cherry. Puis lui, en fait, il essaie de faire un peu comme Crimetown. Dans ce cas-là, la première saison, la seule saison pour l'instant de Dark North, il porte attention, en fait, au crime organisé à Montréal. Donc, il parle de la mafia, il parle des Hells Angels, il parle beaucoup de nous, en fait, puis des événements marquants qui ont fait les manchettes à travers. On parle de la guerre des motards ou tout ce qui tourne autour du clan Rizzuto. Donc,
un bon cours d'histoire, bref.
Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé pour quelqu'un justement qui se pose des questions, qui aime suivre ça au quotidien, ça, c'est un bon document de référence, si on veut. Et puis, je vais terminer en fait avec un dernier balado qui j'ai trouvé un petit peu frustrant, mais qui mérite quand même une écoute. Ça s'appelle Empire on Blood, donc vous comprendrez, c'est en anglais. Ça porte sur la relation tumultueuse entre deux narcotrafiquants de la ville de New York, en fait du Bronx, dans les années 70. L'histoire en tant que telle est super intéressante. La relation qui étaient des amis, qui se sont déchirés, les trahisons, c'est vraiment, on dirait, une histoire de film. La seule chose, c'est que le côté narratif, la structure du podcast est pas très bonne et malheureusement, l'animateur, personnellement, me gosse un petit peu.
Mais là, Fred, il y a juste des défauts, là.
Non. Comme je vous dis, l'histoire mérite d'être écoutée, d'être entendue. Sauf que donner une chance un petit peu à l'animateur, donner une chance à la structure, ça va peut-être prendre un peu plus d'attention que, par exemple...
C'est un goût qui s'acquiert.
Oui, exactement. Bon, faites pas 10 000 affaires en même temps en écoutant ça, sinon vous suivrez pas la chose. Mais je le conseille quand même. Donc, Empire and Blood, donc un autre balado américain.
Très intriguant tout ça. On prend des notes. Moi, j'en ai prises en tout cas. Donc, merci Frédéric McCall, recherchiste à Cube Radio, auteur du blog Accro au balado. Donc, si on veut d'autres suggestions sous d'autres thèmes, ça reste disponible en ligne sur le site du journal, tout ça. Donc, merci d'avoir pris le temps avec nous.
Merci
aujourd'hui.
À toi.
Les effronter.
Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
On conclut l'émission là, avec une chronique qui sera toute en lumière en compagnie d'abord d'Élise Jeté qui rayonne.
Est-ce que c'est moi qui est lumineuse?
Ben, toi et ton sujet, je crois. Donc, Élise Jeté, productrice de contenu en 5 minutes et pour Tabloïd aussi. Tu nous parles, en fait, tu fais le tour des activités de la Nuit Blanche qui s'en vient, qui s'amène, qui aura lieu ce samedi.
Oui, Montréal en lumière, en fait, va culminer ce dimanche. Mais avant qu'on ait... pas avant qu'on ait passé la nuit sur la corde à linge, hein, de samedi à dimanche, on va passer la nuit sur la corde à linge. Je le dis. C'est la nuit blanche, donc, et je voulais te suggérer des activités à faire durant cette nuit festive.
Mais toutes mes nuits sont blanches parce que je fais de l'insomnie, tu peux me trouver des choses à faire.
Mais au moins, on peut t'occuper.
Voilà.
Bien entendu, Vanessa, les principales activités de la nuit blanche à Montréal, c'est avoir fret, perdre ta gang dans la foule et croiser des mineurs dans le métro qui se torchent la face avec de la Smirnoff.
Hein. Au pire, ça, c'est... des familles être dans le chemin d'à peu près 1 million de poussettes.
De poussettes, oui.
Celles que j'évite tellement durant le jour. Là.
Mais il y a plus que ça, Vanessa. Il y a des activités culturelles aussi à faire.
OK.
Et je veux aussi que tu saches que tu vas pouvoir planifier ta nuit blanche en te souciant pas de l'heure de fermeture des métros parce qu'il est ouvert toute la nuit pour la nuit blanche. Donc, tes déplacements vont être fluides, peu importe à quelle heure tu décides de rentrer ou de ne pas rentrer.
Oh, qui sait?
Je t'invite en premier
à... Qui sait ce que la nuit de samedi me reste? De samedi.
Mais tu sais, rien t'empêche de faire des activités qui sont pas liées avec la nuit blanche, mais de quand même rentrer tard.
D'avoir
là.
Un autre type de nuit blanche, you know what I'm saying. OK.
Mais là, on s'égare. Donc, tu peux aller au Musée des Beaux-Arts. Ça nous amène un petit peu ailleurs là, de où est-ce qu'on s'en allait. Pour profiter d'un tarif à moitié prix pour découvrir Momie égyptienne, passé, retrouvé, mystère dévoilé, une expo que j'ai adoré voir. Donc, moitié prix, ça revient à 12 $ pour aller voir l'intérieur de Momie. On nous présente 6 personnes qui ont vécu le long du Nil entre 900 avant Jésus-Christ et l'an 180 de notre ère. Donc, il y a plein d'affaires vraiment excitante à voir. Parce que là, à l'aide de la science, ils ont été capables d'aller à l'intérieur des momies, de nous montrer, sans même avoir à défaire là, les bandelettes. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur et découvrir vraiment des personnalités qu'il y avait à l'intérieur de ces momies-là. Donc, ce sont des gens qui ont existé pour vrai.
Ouais.
On nous les présente. C'est une expo du British Museum qui est là depuis quelques mois déjà. Mais là, il y a un tarif spécial pour la Nuit Blanche.
Wow!
Donc,
c'est très cool tout ça,
Musée des Beaux-Arts. Sinon, on peut aussi aller à l'Agora de la danse pour le 24 heures du vinyle.
Hey, l'année passée, c'est-tu l'année passée que j'ai essayé de rentrer à cette place-là puis ça n'a jamais
donné? Ça ne s'est pas passé.
Ah non, ça finit là, dans une pataterie, malheureusement.
Oui, mais dans une pataterie. Beaucoup de soirées qui finissent dans une pataterie.
Écoute, à un moment donné, là,
oui, en dépit des circonstances, on se retrouve souvent là. 24 heures du vinyle, c'est un marathon musical, donc de 24 heures consécutives. C'est la 20e édition cette année. Il y aura 20 DJ différents qui seront là, en plus d'une foire du disque le dimanche qui va comme faire culminer l'activité.
Fait que je vais prendre du speed.
Oui.
C'est une blague. C'est une blague.
Ben, tu prends la drogue de ton choix, finalement. Ça commence à 21h à l'Agora de la danse samedi soir. Puis c'est un concept qui se déroule aussi à différents moments, un peu partout à travers le monde. Et ça vise à célébrer la culture du vinyle. Ça se passe notamment à Paris, à Londres, à San Francisco, New York, Vancouver, Toronto. Okay. Donc c'est comme une grosse activité qui met en valeur cet objet fascinant qu'est le vinyle.
Qui semble tout indiquer pour les mélomanes. Voyons, je n'y arrive
jamais. Les mélomanes tels que moi. Donc,
voilà,
je risque d'aller faire un tour à cet endroit-là. Sinon, l'aspect gastronomique de Montréal en lumière, faut pas passer à côté, Vanessa.
Je
et surtout pas quand il y a question de fromage.
Oh mon Dieu, tu me parles.
Donc, l'Auberge Saint-Gabriel offre notamment durant la Nuit Blanche, mais dans d'autres soirées durant Montréal en lumière, une soirée fondue au fromage artisanaux d'ici.
Oh, wow!
Donc, à l'Auberge Saint-Gabriel, bien sûr, il faut réserver. Puis, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on achète des billets à 65 $ et il y a 10 $6 qui est remis aux banques alimentaires du Québec à chaque fois qu'on achète un billet.
Donc, une bonne action.
Une bonne action, tout en mangeant du fromage à ne plus finir. Un 3 services de fromage.
C'est la définition de la belle vie.
Ça va jamais finir. Donc, moi, je risque d'aller me goinfrer à cet endroit. Je sais pas si tu connais le festival Art Souterrain.
Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais. Ça implique la ville souterraine. Oui, c'est
en
ça
fait,
que tous
ça existe
les Français imaginent.
2009. C'est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de rendre l'art visuel accessible. Donc, on veut le sortir des lieux d'exposition.
Hein, quand même dans les
sortir l'art visuel des musées, des salles d'exposition et le mettre plutôt dans des endroits non traditionnels.
Accessible.
Et cette année, Art Souterrain commence le 29 février, donc durant la Nuit Blanche, et ça se poursuit jusqu'au 22 mars. Donc, il y a comme des activités spécifiques qui se mêlent, en fait, de la Nuit Blanche et de Art Souterrain. Il y a une activité spécifique qu'il faudrait me payer vraiment très cher pour que j'y participe.
J'ai
tellement
peur.
Un jeu d'évasion géant. S'il y a une affaire à laquelle tu ne verras jamais participer, c'est bien ça. Mais il y en a qui aiment ça.
Les jeux d'évasion.
Les jeux d'évasion, les échappe-toi, puis ces choses-là.
Je ne comprends pas ces personnages.
Moi, l'idée d'être confinée me fait capoter.
Des humains peu recommandables.
Mais ce sera donc la plus grande aventure immersive à date sous forme de jeu. Il y aura la Cité oubliée dans le Centre de commerce mondial de Montréal et Chaos dans le Palais des congrès de Montréal.
Mais le truc là, de commerce de Montréal, c'est-tu assez beau comme endroit?
Oui, c'est
ça?
Magnifique. Donc, il y aura comme on va fusionner, en fait, la découverte des arts souterrains et un jeu d'évasion. Je ne sais pas comment ça va se passer. On s'y verra pas, je n'y serai pas, mais bonne chance à tous les participants. artssouterrain.com pour le reste de la programmation, si jamais vous voulez aller découvrir de l'art à l'extérieur des galeries.
Ouais.
Un endroit où vous pourrez probablement peut-être plus me croiser, c'est au cinéma du Parc dès 23h. On avait parlé avec Geneviève, je ne sais pas si tu avais écouté notre émission au moment où on l'avait fait.
Le cinéma des sièges collants.
Non, elle avait parlé du festival Plein Écran qui a eu lieu en janvier dernier. C'est un festival de courts-métrages qui se déroulait uniquement sur Facebook.
Ouais,
vraiment le fun parce qu'il en dévoilait 4 par jour à des heures différentes. Et
c'était disponible 24 heures
24
seulement
heures, on ne pouvait plus les voir après. Puis on pouvait les partager là, pour leur faire gagner des points. Puis il y avait un concours là-dedans.
Et c'est québécois comme initiative.
Initiative québécoise.
Des courts-métrages qui viennent de partout dans le monde.
Oui,
mais
une initiative québécoise. Mm-hmm. Première fois que ça se passe là, uniquement sur Facebook. Et en collaboration avec Plein Écran, le Cinéma du Parc propose une série de courts-métrages durant la Nuit Blanche. Donc je ne sais pas c'est quoi les règlements, mais des courts-métrages, c'est pratique parce que c'est court. Donc tu peux entrer et sortir à ta guise du Cinéma du Parc, j'imagine. Là, c'est comme des dates Tinder, c'est pas trop engageant. Là,
oui,
tu reviens, puis genre, si t'es pas content, tu
peux
t'en aller.
Merci pour ce référent qui
est qui vient te chercher. Voilà.
Home, comme disent les Anglais. Avec
si tu te déplaces du côté de la Plaza Saint-Hubert vers...
T'as-tu dit Plaza?
Plaza Saint-Hubert. Okay.
Tu parles au alcool aussi?
Oui, je dis tout ça. Oui, mais moi, je viens de Sherbrooke. Hein, en région, on dit des affaires qui n'ont pas de bon sens.
Plaza.
À 22h au House Gang, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal s'associe avec la Nuit Blanche pour faire une expérience d'immersion. Tu connais le vidéaste Baz, bien connu pour ses vidéoclips.
Qui écrivait dans Nightlife Magazine de genre 1990.
Genre là, il propose une activité avec le public, donc les gens vont pouvoir participer. On va rentrer dans une green room pour faire un film ou je ne sais quoi, là, une expérience...
Immersive collective.
Immersive de vidéo. Et il y aura aussi des DJ locaux qui seront là pour agrémenter l'ambiance. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais
tellement abstrait,
c'est sûr
pour
qu'on
chose
vit.
Qui se prépare samedi,
on va vivre quelque chose. On va vivre quelque chose. On ne sait pas ça va être quoi, mais on va vivre quelque chose.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as déjà essayé la grande glissade urbaine la place des festivals?
Moi, j'évite les endroits
où il y a
des familles.
Tu sais, la grande glissade,
ouais, c'est
ça. Il y a des lumières, puis tout. Là, ça se passe pendant toute la semaine. Mais tu pourras l'essayer là, durant la Nuit Blanche
ou
si
non.
T'en as envie. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que cette année, c'est la glissade des recettes d'ici. Puis je comprenais pas pourquoi.
Les recettes d'ici,
parce que quand tu penses à glisser au centre-ville de Montréal, tu penses aux recettes bien de chez nous, vraiment. Vraiment.
C'est quoi? Est-ce qu'on te garoche du gravy d'en face pendant que tu glisses?
Est-ce qu'il faut que tu penses à ton plat préféré pendant que tu glisses? Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais en tout cas.
Tu atterris genre dans un tas de pâté chinois?
Je sais pas.
Okay.
Regarde, si jamais vous le savez, n'hésitez pas là, à nous écrire.
Oui, on a beaucoup de questions.
Oui. Si t'aimes l'improvisation, tu peux aller au théâtre Sainte-Catherine. Il y a la nuit des 100 improvisateurs. Non seulement vraiment, ils disent qu'ils vont changer à toutes les heures de gang d'improvisateurs sur scène, mais aussi ils vont changer de thème à toutes les heures et de style, mais aussi de langue carrément. Donc, ils disent qu'ils veulent être à l'image de Montréal et donc être bilingue. Donc, il y aura de l'improvisation en français et en anglais. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Hein,
oui,
en
ça
français,
va faire réagir, là. Attention.
Mais donc,
mais on rappelle qu'on est en contexte montréalais et qu'il y a des compagnies de théâtre montréalaises qui sont anglophones. Il y a des artistes qu'on connaît très peu et ces personnes-là ont le droit de s'exprimer. Okay?
Tout à fait. Au Quai des Brumes, les 10 heures de poésie, ça commence à 16 heures avec le concours de poésie présenté par Antidote sous la thématique vert écolo cette année. Il y a une suite de prestations, dont un hommage à Claude Gauvreau, et ça culmine avec un open mic en fin de soirée. Donc, Quai des Brumes, ça va être tout en poésie.
Mm-hmm. Est-ce qu'on a le temps, Élise, pour que je parle de ma suggestion, de moi, ce que j'aime faire à chaque année?
Bien sûr,
de la Nuit Blanche. Qu'est-ce il y a un événement, en fait, au musée Red Pat. Donc, pour ceux qui connaissent la fameuse le fameux film Night at the Museum, Nuit au musée, eh bien, chaque année, le musée Red Pat offre l'occasion de visiter ses installations, qui incluent des momies, qui incluent aussi des animaux empaillés, des os dinosaures, de visiter ça dans la noirceur la plus totale, avec comme seule lumière celle de nos téléphones ou de petites lampes de poche. Donc, une activité qui me fait capoter à chaque année. Là.
C'est malade.
Tellement hot. C'est tellement
Est-ce que tu veux qu'on finisse en musique,
Vanessa? Vas-y.
Parce que moi, je vais finir ma fin de soirée avec la Montréalaise DJ Kelly, Rap Mommies. Elle a assuré la première partie de Loud au Centre Bell et c'est comme ça que je vais bouger ma fin de soirée à l'Astral dès 23h59, pas minuit. Oh non.
On écoute un petit bout.
Toutes les autres activités, nuitblanchemtl.com, et il y a un seul conseil qui vaut vraiment, hein, c'est soyez prudents. Les gens ont tendance à abuser des bonnes choses en titubant dans la ville toute la nuit.
Et là, les comas éthyliques là, se font légion lors de cette soirée. Il y a toujours des ambulances partout parce
Sécurité
que les gens s'effondrent.
Sécurité est fun.
Voilà, gardez ça en tête. Merci, Élise, pour ce tour d'horizon là, des activités qui nous attendent ce samedi dans le cadre de la Nuit Blanche, qui sera, comme tu l'as dit, le point culminant du Festival Montréal en Lumière. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Je remercie les gens de mon équipe qui ont été avec moi aujourd'hui. Donc, Joannie Henry à la mise en onde, Frédéric Muckle à la recherche, de même que Marie-Pierre Caillé à la recherche également. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont dans les minutes qui suivent. Merci et à demain.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.